Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cet arrêt sur image très particulier, qui est une grande première, qui est une grande première pour plein de raisons. D'abord parce que nous sommes en direct. Bon, ça, c'est pas vraiment une première. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais aussi parce que nous sommes en direct, donc à la fois sur Facebook Live, sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et bien évidemment sur le site d'Arrêt sur Image où l'émission est consultable gratuitement. Alors, une grande première aussi, émission très particulière parce que nous allons la faire tout au long de cette soirée en direct avec un invité unique, Gérard Filhoche, qui se trouve à côté de moi. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Voilà, alors Gérard Filhoche, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien, Gérard Filhoche qui est membre du bureau national du PS, qui est ancien inspecteur du travail, Gérard Filhoche qui avait souhaité concourir à la primaire organisée par le PS et ses alliés, qu'on va suivre en direct ce soir, mais les instances ont jugé, Gérard, que vous n'aviez pas le nombre de parrainages nécessaires, donc vous n'êtes pas là-bas, vous n'êtes pas sur le... L'image qu'on va voir tout à l'heure, là, ce qu'on voit derrière nous, c'est l'image de BFM qui va retransmettre le débat avec TF1. Il va être retransmis, ce débat de la primaire, sur deux chaînes. Vous n'êtes pas là-bas, Gérard, mais finalement, on s'en réjouit tous, puisque sans être là-bas, vous êtes ici, et que dans quelques minutes, on va pirater tous les deux, hacker, je ne sais pas comment on peut dire, ce débat de la primaire. Donc, vous serez quand même entendu. Alors, on va raconter ce débat, on va le commenter, comme si c'était un match de foot ou une cérémonie. D'ailleurs, je sais, si c'était une cérémonie, ce débat, vous verriez quelle cérémonie, Gérard? Ça s'apparenterait à quelle cérémonie?
Oh non, c'est une table ronde où on va aborder les questions de fond. Ce soir, il y a trois sujets. Je trouve qu'il y en a deux de trop. Parce que la première partie, j'ai bien compris, c'est économique et sûrement sociale. Et après, il y a un débat sur le terrorisme et après, un débat sur la laïcité. Je trouve que la partie économique et sociale devrait occuper toute la première débat. C'est reporter les autres aux autres débats. Donc, moi, j'aimerais bien échanger avec eux sur ce qui concerne des millions de gens, à savoir les salaires, les choses extrêmement concrètes, la retraite, la précarité, le contrôle des licenciements, le droit du travail, la vie des gens. Et ce que j'espère, c'est qu'ils vont parler, qu'on va parler de la vie des gens.
Ben, j'espère aussi. Alors, ce qui a été écrit dans la presse, mais comme vous le savez, il faut toujours se méfier de ce qu'on lit dans la presse, c'est que Manuel Valls, qui est donc l'un des sept compétiteurs, avait énormément insisté pour qu'il soit question de sécurité et de terrorisme dans les trois débats, puisqu'il va y avoir trois débats, mais que les autres compétiteurs ont quand même fait comprendre qu'il ne fallait pas exagérer. Alors, je disais que
Et
ça.
il faut remarquer qu'il y a sur les sept. Il y en a en fait cinq qui sont plus ou moins pour Valls. Il y
Ah
en
oui?
a trois. Ah bah oui, écoutez, Jean-Luc Benhamias, François de Rugy et puis Madame Pinel vont se désister pour le deuxième tour pour Valls.
Ah, vous savez déjà ça, vous?
Oui. Et
Ah oui.
puis l'ami Vincent Peillon, il est venu là au dernier moment un petit peu pour faire tampon, mais le vrai débat sérieux, c'est entre Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, et d'un côté, c'est à la gauche du Parti socialiste, et de l'autre côté, la droite du Parti socialiste, incarnée par Valls, avec tout son bilan que nous dégustons depuis 3 ans.
Alors, on est déjà finalement dans le vif du sujet,
Oui, je ne peux jamais m'empêcher, moi.
mais vous avez raison. Alors, du coup, je ne peux pas m'empêcher de vous demander, vous personnellement, donc vous n'avez pas pu concourir, est-ce que vous avez décidé pour qui vous alliez appeler à voter?
Moi, c'est
Là,
pas.
à l'instant où
Non,
nous parlons, c'est-à-dire
non, non.
20h57.
Réponse non, 20h57.
Est-ce qu'à la
Mes
fin
amis
du
et moi, mes amis et
débat,
moi.
vous aurez décidé?
Non, parce que j'avais décidé
Ah.
collectivement avec mes amis de. Oui, non, je ne prends pas une décision individuelle. Nous avons une revue qui s'appelle Démocratie Socialiste, qui est présente dans 70 départements, et derrière, c'est à peu près 4 000 militants. Et donc, en vérité, on va se consulter, on va avoir une conférence téléphonique, et on va prendre la
Après le débat,
décision.
là, ce soir?
Demain.
Demain.
Demain. Sans
Demain
doute dans la journée de demain ou au pire le samedi matin. Parce qu'on
D'accord.
a, on rencontre justement nos amis, notre ami Montebourg notamment. Voilà.
À vous le rencontrer demain matin.
Voilà.
Demain matin.
Oui, demain matin.
Ah ouais, dis donc.
Je vous fais un scoop.
Voilà. Bon, mais cela dit, j'imagine aussi que vous personnellement, comme vos 4000 amis d'ailleurs, mais vous personnellement, j'imagine que ce qu'on va entendre ce soir et ce que vous allez entendre ce soir va peser dans la
oui,
décision.
Oui, mais moi j'ai déjà des appréciations, mais parce qu'il y a des sujets politiques chez Benoît que je partage tout à fait, et d'autres chez Montebourg. Ce n'est pas fin, c'est pas un jeu. Il y a vraiment des questions de fond politiques qui sont d'ailleurs en train d'évoluer depuis le début de cette campagne, et donc selon en gros la façon dont ça va se poser. De toute façon, il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que tout le monde devra se retrouver le 22 au soir, parce qu'il n'y aura plus qu'un candidat.
Et enfin, le 29.
Oui, le 22 pour le 29. Non,
ah,
il n'y aura qu'un candidat
le
22. Et donc, il faudra soutenir le candidat qui sera en tête, de façon à ce qu'il gagne, ce que la gauche socialiste gagne, le 29.
D'accord. Le 29 janvier.
Oui, le 29 d'accord. janvier. Et d'accord. tout ça pour que le 30 janvier, celui qui aura gagné, s'il est de la gauche socialiste, il appelle Jean-Luc Mélenchon, il appelle Yannick Jadot, et il dit rencontre-nous tout de suite parce qu'on veut un programme commun de gouvernement, parce qu'il faut arriver à un seul candidat à la fin. Si on n'a pas un seul candidat, on perd le 23.
C'est ça, c'est ça le timing.
Le but du
jeu. C'est voilà. ça le but, d'accord.
Et après, quand on me dit, mais l'un ou l'autre, etc., Benoît Hamon a dit une chose intéressante, il a dit, je ne fais pas de ma candidature un préalable. Et effectivement, d'accord. le casting peut se discuter parfaitement. Personne n'est pour la 6e République, la 5e, tout le monde est pour la 6e. Donc le casting peut se discuter entre Premier ministre et Président ensuite.
Alors Gérard, à ce point, je vais faire un tout petit point règle oui. du jeu. C'est-à-dire que vous avez compris que c'est un exercice très particulier qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va commenter un spectacle télévisuel qui est un spectacle de parole. C'est-à-dire qu'il va falloir que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, à la fois écoutent les choses passionnantes que nous allons dire tous les deux, mais en même temps puissent aussi avoir un petit peu accès à ce que vont dire les autres qui sont dans le studio de TF1 et de BFM ce soir. Et vous m'avez compris, Gérard, ça veut donc dire que vous allez devoir faire des interventions relativement brève.
J'ai bien compris aussi.
Ne cherchons pas l'impossible. Relativement brève. Voilà, je voudrais aussi dire, avant que ça commence, si ça commence à l'heure, je ne sais pas s'ils vont commencer à l'heure, c'est prévu pour commencer à 21h, il est 20h59. Je voudrais dire avant que ça commence que cette première ce soir est fortement inspirée de l'expérience de quelqu'un qu'on recevait sur le plateau d'Arrêt sur Image il y a quelques semaines, Jean Massier. Qui anime la chaîne YouTube Acropolis et qui a ouvert la voie à ses commentaires en direct. Alors lui, il commente plutôt en solo les questions du mercredi à l'Assemblée nationale. Il lui est arrivé de commenter des meetings de Jean-Luc Mélenchon et il nous a semblé que c'était un exercice tout à fait intéressant et qu'on pouvait essayer d'adapter au spectacle de ce soir. Alors peut-être qu'on pourrait... Ah, voilà, donc le... BFM vient de passer en pause de pub, ce qui laisse penser que le début du débat... François Rose me dit à l'oreillette que c'est lui qui est allé voir sur TF1 si ça commençait. Mais donc, BFM n'est toujours pas en pause de pub et n'a pas l'air de vouloir se mettre en pause de pub. Effectivement, on peut re-zapper sur TF1 pour voir si... ça commence. François Rose va re-zapper sur TF1. Mais non, alors là, ça n'a pas l'air d'être encore le débat. Je pense qu'on est plutôt encore dans une pause de pub pour un produit ménager que je n'arrive pas
à
identifier.
Tant de dire en quoi c'est important les primaires alors.
Alors allez-y, vous pouvez encore meubler...
Meubler les commentateurs...
Le temps que ça commence.
Non, il y a le premier sondage, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais c'était le 2 octobre...
On n'est pas obligé de laisser la pub.
Le premier sondage, il disait qu'il y aurait 1 800 000 personnes qui avaient manifesté l'intention de voter. Ouais. Ça, c'était en octobre.
La droite, ils étaient combien déjà ?
4 millions.
4 millions. Hein.
Et le deuxième sondage disait que c'était 2 millions, c'était en décembre. Ouais. Et là, la semaine dernière, j'ai cru lire quelque chose qui disait qu'il y avait 2 millions et demi de personnes qui avaient l'intention de venir.
Ah bah après vos interventions de ce soir, ce sera 3 ou 4 millions.
Ouais, mais il faut bien étudier ça, parce que plus il y en a, en gros, plus normalement ça devrait penser à gauche. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne reste plus encarté avec une carte du Parti Socialiste aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui ont voté, par exemple, le 8 décembre dernier pour désigner les candidats aux législatives et aux sénatoriales, il y avait 30 000 personnes.
Vous pensez que plus il y aura d'électeurs et plus le corps électoral va basculer à gauche ?
J'ai la faiblesse de le croire, oui.
Parce que vous vous souvenez que pour la droite, on disait exactement le contraire. C'est-à-dire que Juppé comptait sur un grand nombre d'électeurs en se disant qu'il allait comme ça attirer les... on va dire, au-delà du noyau dur des sarkozystes purs et durs. Et Juppé se disait que plus il y aurait d'électeurs, plus ce seraient les modérés tirant vers le centre qui pèseraient lourd.
Oui, mais là, Valls, il va rendre compte de ses actes. Ouais. Il y a 1 300 000 chômeurs de plus, mais il a donné 41 milliards au patronat, il a été pour la déchéance de nationalité, il a cassé un siècle de droit du travail. Qu'est-ce qu'il va venir voter pour ça? D'ailleurs, il a du mal à défendre son bilan, on va le voir. Donc, qu'est-ce qu'il va venir voter pour ça? Ceux qui vont venir voter sont plutôt des gens qui seront un peu en colère, puis qui diront, on va vous sanctionner, ça va, quoi. Et donc, tous ceux qui ont été victimes du 49-3 ont une occasion, le 22 et le 29 janvier, de venir dire non à Valls. Donc, le mouvement, s'il y a plus d'électeurs, le mouvement ne devrait pas être en sa faveur. Et donc, c'est pour ça que j'espère que ce mouvement sera grand.
Voilà, sauf si, évidemment, Valls fracasse la baraque au cours du débat de ce soir, nous sort un nouveau Valls, des propositions absolument fracassantes.
Au vu des émissions récentes, ça me semble difficile. Hein.
Du genre, mais ne présumez pas, ne cassez pas le suspense, je veux dire, essayons de garder un peu d'intérêt à cette soirée. Alors là, on a totalement perdu le signal et de TF1 et de BFM. Est-ce qu'on a... Eh bien, on dirait que ça commence. Et on va donc pouvoir envoyer le son.
Voilà, c'est le même décor.
Ils sont réunis pour la première fois sur ce plateau. L'un ou l'une d'entre eux sera, en avril prochain, le candidat de son camp à l'élection présidentielle. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce premier débat de la primaire de gauche, organisé par TF1, RTL et l'Obs. Pendant un peu plus de 2 heures, ces 7 candidats répondront aux questions que nous leur poserons et que vous leur adresserez via notre hashtag primaire le débat.
Prenons en main notre siècle. Imaginons la nouvelle France et la nouvelle Europe.
Générique pour commencer, un générique dynamique comme pour tout ce genre-là, avec des photos absolument magnifiques.
Comment on crée une vraie majorité progressiste?
Des photos de comédiens, comment des photos, souvenez des photos hardcore.
Je veux permettre aux Français qui viendront voter à cette primaire de donner du poids à l'écologie dans le projet présidentiel de la gauche.
Oh là, c'est du sérieux là.
On a quitté fin mise sur les roses. Ensemble, alors que les débats de la droite étaient plutôt dans les bleus. On est sur les roses qui a pris tout. Logique.
Il faut rassembler la gauche pour rassembler tous les Français.
J'aime pas ce ton là, ça pourrait être plus modeste et moins gladiateur.
La République, elle a un genou à terre. C'est assez gladiateur. Hein.
C'est vous, hommes des femmes de
progrès. Je suis sûr qu'ils auraient fait des magnifiques photos de vous si vous y aviez été.
Incarnez ce pays qui m'a tant donné. Ensemble, faisons gagner la gauche.
Si j'avais ma photo là, je serais mal à l'aise.
C'est un message radical que j'ai souhaité être candidate dans cette primaire. Je souhaite que nous soyons en capacité de gagner l'élection présidentielle.
La seule qui sourit, c'est la femme. Hein. La femme a une photo souriante.
Bon, à mes côtés, Elisabeth Martichoux pour RTL. Bonsoir.
Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
Et Mathieu Croissando pour l'Obs. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons demander aux candidats des explications très concrètes sur leur programme et sur leur vision de la France. Leurs propositions sont nombreuses, nous ne les aborderons pas toutes. Un mot sur les règles de ce débat. Vous aurez tous le même temps de parole, il apparaîtra sur ces horloges. Vos interventions ne pourront pas excéder 1 minute 30. Si vous voulez réagir au propos d'un autre candidat, vous aurez alors 45 secondes et une lumière rouge apparaîtra si vous dépassez ce temps de parole.
Les modules de parole étaient limités à 1 minute.
Et donc des candidats ont été tirés au sort.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose tout de suite de comprendre comment aller voter à cette primaire.
Quand même, on donne le mode d'emploi avant.
Primaire de la gauche, bah, pas besoin d'appartenir
plus simple, plus prudent.
Ou à l'un des partis associés. Il suffit d'être inscrit sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016, de se munir d'une pièce d'identité, de signer la charte d'adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes et de payer 1 euro par tour.
Les Français deux fois de moins cher hein, que pour la primaire de la droite. Mais sinon, symétrie de forme parfaite avec les conditions qui ont été exigées pour la primaire de la droite.
C'est normal, il faut s'engager à dire je suis de gauche. C'est pas du centre, hein, c'est les élections de la gauche.
Je partage les valeurs de la gauche.
Voilà.
Et on se souvient que pour les primaires de la droite, il fallait partager les valeurs républicaines de la droite et du centre, ce qui ne voulait absolument rien dire. Et ce qui a fait que beaucoup de gens de gauche ont pu aller voter en disant mais moi, les valeurs républicaines de la droite et du centre, je
partage. C'est pour ça que c'est pas le centre. Il faut s'entendre, hein, parce que Macron, par exemple, qui dit « je suis ni de gauche ni de droite », il ne peut pas venir voter, selon ses principes.
La toute première question, elle est importante. Pourquoi voulez-vous devenir, madame, messieurs, président, présidente de la République ? Vous avez chacun 1 minute 20 maximum. Là encore, un tirage au sort a été fait. C'est vous, Manuel Valls, qui allez débuter. Manuel Valls, vous avez été ministre de l'Intérieur en 2012, puis Premier ministre. Pourquoi participer à cette primaire ?
Bonsoir, et allons donc à l'essentiel. La gauche, tous les pronostics le disent aujourd'hui, serait éliminée du second tour de l'élection présidentielle. Notre pays n'aurait que deux options, l'extrême droite ou la droite dure, Marine Le Pen ou François Fillon. Moi, je le refuse.
Rien c'est à cause de ta politique si ça se présente comme ça. Et en plus, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la gauche en France, elle est majoritaire à la base.
Le candidat de la gauche et les écologistes à la présidence de la République.
Elle est déçue.
Vous lui donnerez une force et un élan que rien n'arrêtera. Vous me connaissez.
Ah bah oui,
j'aime
justement.
Elle m'a tout donné. J'ai été maire d'Evry, ministre de l'Intérieur, Premier ministre.
Ah bah ça s'est mal passé, hein. C'est pour ça qu'on en est là.
J'ai l'expérience. J'ai assumé les responsabilités et l'autorité de l'État.
Ah bah aujourd'hui, l'expérience, c'est d'aller dire aux dictateurs chinois que les 35 heures, ça n'existe plus en France. Ça, c'est pas une expérience.
Une République forte, une France juste. Dans ce monde difficile et incertain, j'ai l'énergie, j'ai le courage pour protéger la France, pour protéger les Français, pour défendre notre laïcité, pour que personne ne se sente oublié, pour donner de la force à notre économie.
Le premier thème, c'est pas redistribuer les richesses. Hein. Le premier thème, c'est pas de lutter contre le chômage de masse. Hein.
Français, c'est vous qui déciderez de votre avenir
la laïcité.
Et de votre
la laïcité en tout premier thème.
Et pour intéressant à noter. Un président.
Bonsoir François de Rugy, vous présidez le parti écologiste,
crispé,
pas confondre avec Europe Écologie des Verts, vous êtes député de l'Oracle.
On ne parle pas social, on parle institution.
Il n'a pas fait l'effort de sourire.
Qu'est-ce qui justifie votre présence ce soir ?
Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de vous présenter mon projet et mes propositions, je voudrais dire un mot sur le sens de ce débat. Je crois que nous ne sommes pas ici ce soir pour refaire les débats.
Alors, François de Rugy, le présenter en deux mots quand même, ex-Europe Écologie Les Verts. Comment pourrait le présenter Gérard Filoche ?
Je sais qu'il n'y a plus grand-chose derrière lui. Europe Écologie Les Verts, c'est quand même Les Verts. Lui, il n'y est plus. Je ne sais pas quelle base il a au juste.
C'est l'écologie que j'ai défendue, que j'ai mise en œuvre.
Il les a quittés pour être ministre, en fait.
Oui,
clairement.
Est-ce qu'il n'a pas été ?
Et en tant que député à l'Assemblée nationale.
Si c'était bien clair.
J'ai présenté un projet avec 66 propositions. 66 propositions pour relancer l'économie, pour créer plus d'emplois, pour améliorer le pouvoir d'achat des classes moyennes.
Des classes moyennes, c'est pas les petits salaires et les petites retraites qui l'intéressent, lui.
Pour améliorer, bien sûr, la qualité de vie.
Moi, spontanément, j'aurais commencé par là, quand même, non ?
Je crois que c'est cela.
François de Rugy, député de Loire-Atlantique,
présenté
un temps d'ailleurs dans les premiers temps de son mandat parlementaire, tenait un blog sur le site de Libération où il racontait son expérience de parlementaire.
Vous êtes député européen, vous avez été entre 2012 et 2014 ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi
alors lui, il est arrivé entre le 1er et le 10 décembre, il a eu ses signatures entre le 10 et le 14, je ne sais pas pourquoi encore.
Mais la France l'est aussi.
Alors on a dit beaucoup de choses. On a dit que c'était Hollande qui l'avait envoyé pour torpiller Valls.
Moi je comprends toujours pas pourquoi il est là.
Après on a lu dans la presse, parfois sous les mêmes signatures, que Hollande se méfiait de lui. Vous avez des informations,
non ? Non, aucune. Et je n'ai pas encore entendu ce qu'il défendait, bien que j'ai essayé de lire.
Alors, écoutons,
j'ai bien entendu.
International difficile, incertain, où le tragique revient dans l'histoire. Il y a une Europe qui s'effondre sur elle-même. Il y a une France où certains attisent les haines entre les uns et les autres. Tous les jours désignent des boucs émissaires. Déjà, la droite elle-même ne représente plus une espérance. Monsieur Fillon s'attaque un jour à la laïcité, le lendemain à la sécurité sociale, il se fait saluer par Poutine et maintenant par Bachar el-Assad. C'est une honte pour notre pays. Je veux que la France marque son sursaut. Je veux que les hommes et les femmes de bonne volonté, je les crois majoritaires, s'unissent autour d'une ambition commune. Okay. Un projet de justice, un projet de progrès. Je veux faire gagner la gauche parce que je crois que aujourd'hui, dans ce moment historique, elle seule pourra faire gagner la France.
Justice et progrès, ça fait 50 ans que tous les candidats sont pour.
Vous êtes président très du Parti radical de gauche, vous avez été ministre du Commerce.
Qu'est-ce que c'est la justice ? La retraite à 60 ans ? Qu'est-ce que c'est la justice ?
On va voir s'il va être amené.
La hausse du SMIC qui n'a pas été augmentée depuis 5 ans ?
À préciser au cours du débat.
Bonsoir. Ma candidature est certainement singulière. Il y a d'abord ce qui se voit et qui permet de rappeler que la politique n'est pas réservée aux hommes. Il y a ensuite ce que je souhaite montrer à la gauche et à la France.
Très léger accent du sud-ouest de Sylvia Pinel.
Leur montrer le regard
sur son pays
d'une jeune femme qui est originaire d'un petit village du Tarn-et-Garonne,
voilà,
en a gardé le sens de la proximité et de la solidarité. Des valeurs qui ont guidé tous mes engagements politiques.
Donc Sylvia Pinel, qui est actuellement ministre, d'ailleurs, je ne sais plus quoi.
Je crois que c'est les radicaux.
Elle est ministre des radicaux.
Ouais, ouais.
Ça existe, le ministre des radicaux.
Mais encore, oui.
Elle est ministre des radicaux.
Bah, du Parti radical de gauche.
Du Parti radical, oui, mais quel est son poste ministériel ?
Je ne sais
pas. Un nouveau chemin.
Je sais que son parti s'était retiré de cette primaire, est revenu de cette primaire la veille du jour où il fallait déposer les candidatures, et qu'elle, de Rugy et Benamias n'ont pas eu besoin de parrainage pour discuter ce soir.
Oui, puisqu'ils se sont présentés au nom d'un parti qui n'était pas le Parti Socialiste, donc ils ont été dispensés des...
Dans une alliance dite populaire qui n'avait pas de statut, pas de nom, pas d'adresse.
Et bon, bref. Moderne,
avantage qu'on vous a refusé à vous, puisque vous aviez dit aussi vous, mais je me présente au nom du parti, comment il s'appelait, Filoche 2017, c'est ça ?
Oui, il n'y avait pas de raison.
Oui, aucune raison.
Aucune raison. Cambadélis avait même proposé une wild card, une carte sauvage à Macron. Je sais pas si vous voyez, moi je demandais une carte vitale.
Bonsoir Benoît Hamon. Vous êtes député socialiste des
Yvelines. On a parlé sur ce que disait Sylvia Pinel.
On a eu tort, on a été plus attentifs pour la prochaine fois.
Pourquoi êtes-vous candidat ?
Chers concitoyens, je voudrais commencer par partager une conviction.
Très ému.
Cette conviction, c'est que nous vivons des bouleversements inédits. La manière dont nous consommons, la manière dont nous produisons met aujourd'hui la planète en danger. Le travail se transforme, il se raréfie sous l'impact de la révolution numérique.
Le travail est une comète en expansion infinie.
Nous sommes en démocratie, dans la mondialisation, peut-être moins bien équipés qu'auparavant pour maîtriser cette transition. Transition, c'est bien de cela dont il s'agit. Maîtriser la transition ou basculer dans la régression. Et pour cela, à mes yeux, il faut tourner la page. Tourner la page avec la vieille politique, les vieilles solutions, ces recettes qui marchaient guère hier, ne marchent pas aujourd'hui et ne marcheront pas davantage demain. C'est pour cela que je veux proposer un chemin. Et sur ce chemin, il y aura un nouveau pilier pour notre protection sociale. Le revenu universel d'existence qui permettra aux nouvelles générations
de maîtriser.
Alors vous allez le dire, on va avoir le temps de le dire.
Il y aura la transition écologique.
Sa position phare.
Que demain,
pourvu que ça ne soit pas si, ça a l'air d'être l'axe de la campagne. C'est pas possible,
il y aura une sixième république, plus démocratique, mais aussi plus bienveillante. Au fond, ce que je souhaite, c'est que la France et la gauche renouent avec le long terme. C'est que nous ne sacrifions plus l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants aux accommodements de court terme. Je veux que nous nous tournions avec confiance vers le futur. C'est le sens de ma candidature.
Bonsoir, Arnaud Montebourg. Vous avez été député de Saône-et-Loire. Vous avez ensuite été ministre du redressement productif et de l'économie de 2012 à 2014. Vous étiez jusqu'en juillet dernier vice-président du Conseil de surveillance d'Habitat.
Moi, j'ai un préjugé favorable pour ces deux-là.
J'avais cru comprendre.
J'ai toujours été constant dans mes convictions et mes combats. Contre les paradis fiscaux, contre l'austérité, pour une sixième république, pour le patriotisme économique, pour une Europe enfin au service des peuples. J'ai l'expérience de l'État. Je sais ce qu'on peut en faire ou pas. En cet instant, je pense aux ouvriers de Florange, à ces travailleurs précaires.
Je suis à Florange demain soir.
À ces professeurs des écoles, ces infirmières, cette France qui travaille ou voudrait travailler. C'est pour vous que j'ai posé ma candidature. Je demande votre confiance. Pour écarter.
Alors, sur mon nom, j'ai très mauvais esprit. Je pense qu'il faudrait tout de suite compter le nombre de fois où il emploie le pronom personnel je.
Ils l'ont tous fait,
Non, non. Il me semble qu'il pulvérise tous les records.
Peut-être. Mais il a tout de suite parlé des ouvriers, des salariés, etc.
Du système économique et financier, politique et européen pour reprendre en main notre destin et peser sur nos vies. La grande politique du Made in France, la relance économique et écologique, la sécurité sociale professionnelle, pour nous libérer du chômage de masse, la reconstruction de l'éducation nationale, de la santé, pour faire reculer les inégalités et la pauvreté. Une République forte face au terrorisme, dans un pays meurtri qui saura toujours défendre ses libertés. Je veux être le président de la volonté et du courage.
On n'a peut-être pas été toujours très attentifs. Est-ce que jusqu'ici, le mot ouvrier a été prononcé?
Lui, il l'a fait.
Il vient de le dire, là.
Il a commencé par parler des salariés, des travailleurs, des ouvriers, de Florange.
Il a dit Florange.
J'ai dit que moi, j'y allais demain soir.
Avant de rejoindre le modèle de François Bayrou,
le mystère Benamias,
qu'est-ce
que Jean-Luc Benamias vient faire dans cette.
Pour votre présence ce soir.
Ah ben voilà. Elisabeth Martichon.
Je suis candidat dans cette primaire pour porter une idée forte. C'est l'intérêt général qu'il faut défendre. Défendre l'intérêt général, c'est faire le bilan de ce qui a été inefficace et efficace ces 30 dernières années.
Général du général.
Défendre l'intérêt général, c'est inventer des propositions nouvelles et en finir avec notre monarchie républicaine. Défendre l'intérêt général, c'est avoir pour objectif le bien-être de tous. C'est cet objectif et non pas la logique naturelle de l'économie qui doit décider de tout. Défendre l'intérêt général, c'est ne plus supporter que dans notre pays il y ait 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs. Défendre l'intérêt général, c'est porter l'idée du revenu universel.
À lui aussi.
Défendre l'intérêt général, c'est se souvenir que dans notre planète, que notre planète est vivante, qu'elle ne peut pas tout subir, tout supporter sans sérieusement s'abîmer. Et enfin, défendre l'intérêt général.
C'est dire qu'il y a des classes sociales dans notre pays. Elles n'ont pas le même intérêt. Ceux qui sont exploités n'ont pas le même intérêt que les gens du MEDEF qui leur prennent l'essentiel de leur travail.
Pour vous, le concept même d'intérêt général est un concept de droite.
Oui, ou alors il s'applique à la société en partant de sa majorité. C'est-à-dire de celle qui produit les richesses et qui n'emploie pas la part qu'il mérite. L'intérêt général, ça implique forcément de prendre au 1% des oligarques l'argent qu'ils ont en trop. Donc eux, ils ne vont pas apprécier. Ils ne vont pas dire que ce n'est pas mon intérêt. De la même façon que quand on dit les mots peuple en général, ça me chagrine toujours un peu parce que non, pas que ça me gêne, mais il y a 1% des gens qui possèdent plus que les 99 autres
pourcents. Mais qui contient des avancées. La COP21, le mariage pour tous, le tiers payant généralisé, les carrières longues qui ont bénéficié de la retraite à 60 ans. Mais c'est un quinquennat qui a échoué sur le chômage.
Un mot. Vous pouvez prendre plus de temps, mais il sera évidemment décompté. Un mot pour qualifier le bilan.
Difficile à défendre.
Ils n'ont rien dit du premier coup de bilan.
Je trouve que la situation de notre pays n'est pas si mauvaise que cela.
Un mot.
Quand je regarde
un mot.
Un seul mot, vous voulez un seul mot?
Voilà, c'était, il a dit son
au sens littéral du terme.
On peut mieux faire.
Voilà. On peut mieux faire.
Bien. Voilà, on y arrive.
François de Rugy, d'un mot.
C'est un bilan contrasté, en demi-teinte, beaucoup de déceptions, beaucoup d'insatisfaction par rapport aux espoirs de 2012.
Mais
donc,
le gouvernement
contrasté.
Contrasté, en demi-teinte.
Non, Rugy n'est pas au
Benoît Hamon, d'un mot, ministre, hein. 5 ans de quinquennat de François Hollande.
Mon sentiment le plus profond, c'est un sentiment d'inachevé, comme si nous étions restés sur beaucoup de sujets au milieu du gué.
Deux mots, donc. Vincent Payon.
Oui, c'est le sentiment d'une profonde incompréhension qui s'est établie très vite avec le pays et avec ceux qui nous avaient soutenus, parfois injuste parce qu'elle était liée à des maladresses politiques ou à l'évolution des choses, mais cette incompréhension est allée jusqu'au bout, et donc la crise politique dont nous héritons... Elle est très profonde.
Manuel Valls, si vous aviez un mot, un
adjectif. Fierté d'avoir servi les Français dans une période
1 300 000 chômeurs de plus,
ne l'oublions jamais.
Rien que des cadeaux au patronat, la casse du code du travail, il est fier.
En même temps, si vous voulez, il faut bien qu'il y en ait un qui défende le bilan.
C'est clair, c'est la raison pour voter contre lui.
Parce que beaucoup de réformes pour
ce bilan est catastrophique. La gauche, on n'avait pas voté pour ça. Le discours de Hollande au Bourget, il a été piétiné. Les inégalités se sont creusées, les misères aussi. Donc le bilan, c'est... Moi, je trouve que les 7, d'ailleurs, ont été nuancés. J'aurais été plus vif pour dire que ce bilan était une trahison des objectifs qu'il y avait eu en 2012 quand nous avions voté. Nous avions envie tous à gauche de faire quelque chose qui soit une changement social.
Arnaud Montebourg, vous êtes le seul parmi les candidats ici présents à vous engager sur un objectif chiffré, le taux de chômage de 6,1%, c'est très précis, à la fin de votre quinquennat, soit presque 1 million de chômeurs en moins. Comment allez-vous faire très concrètement?
J'ai un plan de bataille contre le chômage qui tient en 3 fronts. Le premier, c'est la relance économique et écologique. Nous allons investir dans les infrastructures sur les territoires. Ce sont les routes dangereuses, la fibre numérique, le ferroviaire et remettre au travail des PME, l'artisanat, la filière du BTP. C'est une relance aussi écologique parce que nous allons investir dans la rénovation thermique des logements, des bâtiments, en utilisant de l'argent public et de l'argent privé car il y a des recettes dans les économies.
Fait de l'écologie. Alors on se souvient que le ministre de l'Industrie, il a quand même pris position très nettement en faveur de la recherche sur les gaz de schiste. Enfin,
il est revenu là-dessus.
Oui,
il est revenu là-dessus. Et donc, il avait seulement fait enquêter. Et là, il dit qu'il ne défend plus ça. Mais par contre, il parle d'une transition écologique avec des investissements.
Des emplois à nouveau qui reviennent.
Une conversion récente.
Des équilibres financiers qui ne se dégradent pas, mais qui s'améliorent. Pourquoi ? Parce que plus on est nombreux à travailler, plus on contribue aux caisses publiques.
Donc, la réduction du temps de travail.
Votre gouvernement.
On a peut-être parlé au moment où il a prononcé ce mot, mais c'est ça que j'aurais mis en premier. Hein, c'est la marche aux 32 heures, le retour à la retraite à 60 ans, parce qu'il n'y a pas de raison de faire travailler les gens jusqu'à 65 ou 67 ans quand on a 6 millions de chômeurs. Et évidemment, le partage des richesses et l'augmentation des salaires, parce que ça contribue à la relance. Ça manquait là.
On parle de ce CICE comme d'un échec, et elle a calculé que chaque emploi créé ou préservé revenait à 260 000 euros. Deux questions très simples. Est-ce que ça n'est pas trop cher payé? Et est-ce que vous regrettez de ne pas avoir demandé, exigé des contreparties à ces milliards donnés aux entreprises?
J'assume ce qui a été engagé pour soutenir les entreprises.
Avec 41 milliards, on aurait pu avoir des centaines de milliers d'emplois publics.
Alors on parle du CICE, vous pouvez expliquer en deux mots ce que c'est.
C'est un crédit d'impôt qui a été accordé aux entreprises. Alors à toutes les entreprises, mais comme il y a les petites, les moyennes entreprises, ce sont les grandes qui en tirent bénéfice. Parce qu'elles siphonnent dans les passations de marché l'essentiel de ce qui est donné aux PME. Ce qui fait qu'en vérité, ça enrichit les 1000 entreprises de plus de 1000 salariés qui produisent la moitié du produit intérieur brut. Et comme elles ne créent pas d'emplois, elles ne veulent pas créer d'emplois, elles vont mettre l'argent à Panama ou elles vont le mettre aux îles Caïmans. Au Luxembourg et pas dans l'emploi. Donc ça a été un échec total. Lui, c'est 1 300 000 chômeurs de plus depuis juin 2012.
Bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup trop de nos compatriotes qui sont au chômage ou dans la précarité. Et moi, je propose d'aller plus loin. Non pas de changer de cap.
Encore
parce
plus loin que les 40 milliards.
Il faut donner encore plus d'argent. Oui, c'est ça. J'ai
de stabilité, notamment sur le plan fiscal. Et c'est pour cela que nous avons prévu la baisse de l'impôt sur les sociétés.
Les multinationales payent 3, 4, 5, 6, 7, 8% d'impôts. Alors que les petites sociétés payent 33% d'impôts.
Plus loin pour les investissements d'avenir. Pour le numérique, pour la transition écologique, c'est-à-dire très concrètement la rénovation thermique des logements, les transports et notamment l'électrique. Donc nous devons poursuivre ce soutien à l'innovation, à la recherche et à notre économie. Mais j'assume ce qui a été engagé pour le redressement de
notre
pays.
Donc vous ne regrettez pas de ne pas avoir demandé, exigé des contreparties aux entreprises. Vous dites elles vont venir, ces résultats vont venir. Mais je voudrais demander à Benoît Hamon si la réponse de Manuel Valls le convainc.
Personne n'ignore que les premiers mois du gouvernement, un débat existait dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sur le bien fondé d'aide aux entreprises sans contrepartie. Ce débat a eu lieu, il a été tranché, arbitré, à la fois par le président de la République et par deux premiers ministres successifs. Je regrette ce choix parce que c'est un choix qui a conduit, au bout du compte, à mettre beaucoup d'argent public avec des résultats qui sont des résultats très en deçà de ce qu'étaient les attentes légitimes des Français
de
quand ils ont fait confiance en la gauche pour inverser la courbe du chômage, selon le propre engagement du président de la
République. Les résultats ne sont pas en train d'arriver, comme dit Manuel Valls ?
Mais sûrement pas.
Quand aujourd'hui...
Même l'année dernière, c'est plus 0,3% sur 12 mois
de plus.
On est calé A, B et C.
Et que nous nous comparons avec ce qui s'est fait avant. La question qui sera posée, c'est pourquoi n'avoir pas changé d'orientation quand la possibilité nous était offerte de restaurer les marges des entreprises en contrepartie ou d'une réduction du temps de travail ou d'une organisation nouvelle du travail et de création d'emplois. C'est ce rendez-vous qui a été raté. Mais surtout, je voudrais rajouter d'un mot. Le fait que, à cette table ou à ces pupitres, comme il y a 5 ans, comme probablement il y a 5 ans auparavant et 7 ans auparavant, nous allons dire, ou on va dire, cap sur la croissance. Sauf que cela fait plusieurs décennies que la croissance ne revient pas. En dépit d'une croyance et d'une foi des dirigeants politiques de droite comme de gauche, incroyable. Et ce quinquennat aura été particulièrement dévot, la loi travail, la loi Macron et 40 milliards d'euros par an.
D'un mot. Cette croissance ne revient pas en France, mais elle revient chez tous nos voisins, monsieur.
Je considère aujourd'hui que nous devons nous interroger sur la nature des politiques que nous mettons en œuvre dès lors que nous constatons que les inégalités continuent à progresser et que le chômage ne baisse pas.
Voilà, alors, petite attaque de Benoît Hamon contre la religion de la croissance. C'est le premier point enfoncé entre Valls et Hamon sur cette question du CICE, enfoncé par Elisabeth Martichoux.
Est-ce que c'est encore RTL.
Est-ce qu'on est obligé d'en passer par là?
Intervieweuse matinale
l'emploi,
de RTL.
L'emploi, c'est le retour de la croissance.
Alors on écoute Sylvia Pignel cette fois, hein, Gérard Filoche.
La machine économique
voilà.
est bloquée.
Sur,
donc,
ce que je propose, sociaux.
C'est un vaste plan pour soutenir nos entreprises. Vous avez évoqué le crédit d'impôt pour les recrutements en CDI, parce que je refuse la précarité des salariés, mais cela ne suffit pas. Je garde ce bout de crédit d'impôt pour les recrutements en contrat à durée déterminée. Mais il faut parallèlement réformer notre impôt sur les sociétés, qui a un taux extrêmement élevé en France et qui ne touche pas l'ensemble des bénéfices et des activités de l'entreprise.
Vous le baissez à combien ?
Je le baisse au taux maximum de 20% avec des taux intermédiaires pour les bénéfices inférieurs. Mais il faut surtout élargir l'assiette de notre impôt sur les sociétés pour imposer les revenus des entreprises.
Elle vient dire qu'elle était favorable donc à baisser l'impôt sur les sociétés, c'est bien ça ?
Oui,
on a bien entendu.
Hein. Bien entendu, je crois.
Des fardeaux injustifiés qui pèsent
sur les entreprises,
comme la cotisation de famille et de la sécurité sociale, pour inciter les employeurs pour permettre aux entreprises d'avoir plus de compétitivité et aussi pour renforcer l'attractivité de notre pays. Parce que si on veut relancer l'emploi, il faut faire en sorte que de nouveaux investisseurs viennent aussi sur notre territoire.
Jean-Luc Benhamias, vous êtes le
troisième pays importateur de capitaux, troisième ou quatrième.
De ces pupitres, à être partisan de ce qu'on appelle le revenu universel que vous portez à 800 euros par mois.
Je ne comprends pas comment ça devient le débat principal.
ATD Carmont, le Secours catholique.
Alors sur le revenu universel, je précise d'ailleurs qu'on vient de publier aujourd'hui sur le site d'Arrêt sur Image une enquête très éclairante d'Anne-Sophie Jacques en expliquant les tenants et les aboutissants, pourquoi certains sont pour, pourquoi certains sont contre et surtout les différentes acceptions de la notion en fonction de la droite et la gauche. Voilà pourquoi Valls, le titre de notre papier, c'est le revenu universel s'incruste dans le débat de la primaire à gauche.
Et moi sur mon blog, un long article.
On vous cite les raisons pour
lesquelles. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que cette question-là arrive comme ça, improvisée, devant, au premier plan, et fasse obstacle à toutes les choses immédiates qu'on pourrait faire. Parce qu'augmenter le SMIC, c'est plus urgent, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Dans les premières semaines d'un gouvernement de gauche.
Pour arriver à cela, c'est un mandat ou deux mandats. C'est progressif. Je dis que je m'adresse non pas. Ça peut s'adresser aux pauvres, aux gens qui sont dans la difficulté. Ça s'adresse à l'ensemble de la société. C'est une aide à l'entrepreneuriat. C'est une aide aux jeunes de moins de 30 ans qui n'ont pas forcément...
On va payer des salaires à la place des patrons.
Leurs parents,
d'avoir ça va les salariés eux-mêmes qui vont le payer par le biais de l'impôt.
D'avoir la possibilité d'entreprendre.
Au lieu de faire payer la protection sociale par le capital et les actionnaires.
Vous l'avez raconté. C'est une aide qui n'est pas conditionnée au fait qu'ils créent un emploi.
Condition.
Ils font ce qu'ils
aucune
veulent
condition.
De cette... Aucune condition.
Aucune condition.
Quel que soit leur revenu.
Aucune condition. Ceux qui ont des gros revenus. Madame Bettencourt, par exemple, le remboursera 10 fois en impôts de toute façon. Donc c'est pas le problème.
Si elle touchera, elle le rendra au centuple.
Je prends un exemple. Je sais que la lumière rouge allume.
C'est 10 fois c'est au centuple.
Vous avez parlé,
plus que 10 fois au centuple.
35 à 40% des agriculteurs touchent 450 euros par mois de revenus. Je dis que je veux garder ces fermes sur le territoire pour l'aménagement du territoire, pour nourrir nos populations. Et je dis que dans ces cas-là, ces fermes ne fermeront pas, car ils auront le revenu universel à côté. Je pourrais prendre d'autres exemples d'artisans, de commerçants et autres.
Alors, très bien. On a compris qu'avec Benoît Hamon, vous étiez sur le revenu universel, on reviendra. Mais d'abord, Vincent Peillon, vous y êtes philosophiquement, si je puis dire, opposé. Et vous ajoutez que sur un plan pratique, sur un plan financier, on ne peut pas se le permettre.
Ah bah, ça coûte plus cher que de faire les 32 heures et le SMIC à 1800 euros et la retraite à 60 ans.
Non, mais attendez, Gérard Filoche, vous n'allez pas refuser a priori une mesure sous prétexte qu'elle coûte cher.
Pourquoi on ne ferait pas la retraite à 60 ans d'abord? Pourquoi on ne ferait pas les 32 heures d'abord? Pourquoi on ne mettrait pas le SMIC à 1800 euros? On va dépenser une fois, deux fois, trois fois plus pour quelque chose qui vient en 2020 et qui va donner 550 euros à chaque personne, ou peut-être 750 euros.
Ils ne sont pas venus. Et ça a sans doute été la plus grande difficulté de ce quinquennat.
Ça, c'est la réponse à Manuel Valls tout à l'heure.
Est-ce qu'on va c'est pas une réponse à Manuel Valls, c'est un rappel de la réalité des choses. Mmh. Est-ce qu'on va déstabiliser les entreprises aujourd'hui? Non. Donc je maintiendrai le CICE. Mais je le mettrai...
Il est reparti sur le CICE.
Il continue. Ça fait 5 candidats pour Valls et pour le bilan.
Il m'avait semblé qu'il était interrogé sur le revenu universel.
Et qui a licencié 600 employés sur 3 sites. Une entreprise comme ça ne doit pas avoir droit au CICE. Il faut en même temps faire en sorte que...
Je suis pour des minima sociaux indexés sur le SMIC. Je suis pour des minima sociaux qui soient plus élevés que ce que nous connaissons aujourd'hui. Je suis pour une allocation d'études et d'autonomie pour les jeunes.
Le projet
et celle-ci sans condition de ressources. Mais un revenu universel, c'est quoi? Ça veut dire les salariés qui vont payer à la place des patrons la protection sociale?
Pas les salariés, les contribuables.
Les contribuables, c'est les salariés. Mais les contribuables, c'est les salariés essentiellement.
Un jour, on nous dit, on va supprimer toutes les autres solidarités. Les allocations familiales, la sécurité sociale. Et c'est là que les associations disent, attention, il y a un vrai problème. Un autre jour, on nous dit, on va les garder. Mais alors, les 400 milliards, il faudra les prélever uniquement en impôts supplémentaires. Ouais. Et tout le monde paiera. Mais philosophiquement, je pense que c'est une idée qui pose effectivement un grand problème. Pourquoi ? Parce qu'elle dit, et c'est la question de la solidarité. La solidarité, nous l'avons construite pendant deux siècles sur l'idée que ceux qui ont le plus donnent à ceux qui ont le moins.
Philosophe, là, on dit, je le rappelle, tout le monde professeur aura la de même philosophie. Chose.
Et nous n'avons même plus l'obligation
de donner à ceux qui sont indemnisés.
Vous êtes philosophe de formation.
Ça me semble être une rupture importante. Mais si vous le voulez bien, je vous parlerai quand même de la façon dont la France doit lutter contre le chômage à une prochaine session.
Alors,
je suis le premier dans ce Sénat d'avoir évoqué cette notion.
Avoir entendu les raisons philosophiques de l'opposition de Payon.
Cette idée serait une idée qui pousserait la société à l'assistanat et au farniente. Vous lui répondez quoi ?
Ça s'est gonflé.
Je me souviens quand Michel Rocard a mis en place le revenu minimum d'insertion, on entendait des arguments semblables sur la société une société qui encouragerait au laxisme, à la paresse. Je me souviens quand Martine Aubry a mis en place la couverture maladie universelle, on prétendait que les plus pauvres allaient beaucoup consommer de soins plus que les autres. Ça n'a pas été vrai. J'observe, je le dis simplement, que si l'on parle du revenu universel, il ne peut se mettre en œuvre que par étapes. Et que cette étape des 400 milliards ne peut être qu'une étape de moyen et long terme. Première précision. La première étape, ce sera de mettre en œuvre un revenu universel pour les plus pauvres, d'éradiqué par la pauvreté, par l'automatisation du RSA et le fait de le revaloriser, pour ce qui me concerne, de 10% en le portant à 600 euros. Et de le distribuer aux 18-25 ans. Pourquoi ? J'ai évoqué tout à l'heure la révolution numérique. Elle change
radicalement. Écoutez cet argument, parce que là, je pense que
notre rapport au travail est celui des nouvelles générations. Le Conseil d'orientation pour l'emploi, aujourd'hui, vient de confirmer qu'à échéance de quelques années, ce sont près de 10% des emplois en France qui étaient menacés de disparition. Personne ne peut plus contester que la révolution numérique est une formidable opportunité, mais qu'elle va avoir des conséquences qui peuvent être négatives sur l'emploi si nous ne les maîtrisons pas. Comment entrent sur le marché du travail aujourd'hui les jeunes actifs ? Par le salariat, contrat court, par le travail indépendant, l'auto-entrepreneuriat, de plus en plus souvent, des périodes de formation nécessaires, de création d'activités. Pour cela, il faut les équiper en droit de la même manière que nous l'étions auparavant, le revenu universel d'existence et ce nouveau pilier de la protection sociale que je veux pour cette génération, parce que nous leur devons autant que nos pères ont fait pour nous en matière de sécurité sociale.
Ce n'est pas un appel à la paresse, juste pour répondre sur ce petit point-là.
Écoutez, je trouve que dès lors que l'on pense à la solidarité, on évoque une incitation à la paresse. Évidemment que non, mais quand on a fait la sécurité sociale en 1945, que disaient ses opposants ? La même chose que ce que je peux entendre aujourd'hui à droite quand on nous dit « irréalisable ». Aujourd'hui, nous parlons d'un revenu universel d'existence qui correspond à la réalité du travail tel qu'il est, pas tel qu'il fut. Et j'entends bien, moi, parler de la société telle qu'elle est, pas telle qu'elle a été.
Sécurité sociale, qui était le sujet de notre dernière émission d'Arrêt sur Image, émission absolument passionnante sur les origines.
Qui combinerait une dizaine d'allocations déjà existantes.
Pour prolonger la sécurité sociale, pas pour la remplacer par un revenu universel.
Pour développer la sécurité sociale. Je veux dire très sincèrement qu'ici, je n'ai pas d'adversaire, encore moins d'ennemis, que nous sommes venus débattre devant les Français pour les convaincre que la gauche est toujours utile à la France et qu'elle est belle, elle est grande quand précisément elle s'adresse à tous. Et pas uniquement, elle débat entre elles, même si nous sommes évidemment aujourd'hui dans ces débats de la primaire. Ensuite, je veux dire que la politique économique, comme la politique fiscale, comme la politique budgétaire, ont besoin de continuité. De sérieux.
Bien sûr, la réforme fiscale n'a pas été faite, la réforme bancaire n'a pas été faite.
Une rupture technologique majeure. Bah,
d'une certaine manière, c'est de la continuité dans les actions.
Oui, et puis il y a 10 points de dette présumée de plus.
Encore une fois, dans cette transition écologique, et nous l'avons fait.
Jusqu'ici, entre tous les compétiteurs, notamment avec la loi de transition écologique,
mon gouvernement a porté.
Aucune interpellation directe, aucun dialogue.
Une société du travail. Une société qui met le travail au cœur. Parce que le travail, c'est la dignité pour les salariés, pour les ouvriers, pour les fonctionnaires de ce pays.
On critique par petites phrases.
On donne de la rémunération.
J'aimerais pouvoir faire le développement.
Ah ben oui, mais fallait y être.
Bien sûr, par l'emploi, mais aussi par cette proposition
mais
que
souvent
je
les petites phrases sont
de
quand même
fusionner
plus efficaces
en effet
que les, développement.
Les minima sociaux pour qu'ils soient plus efficaces.
Dans les
c'est
phrases.
La belle idée défendue par François Chérec qui nous a quittés il y a quelques semaines, et parce qu'il serait aujourd'hui applicable dans ma proposition aux 18-25 ans qui ne peuvent pas avoir le RSA, mais toujours sous condition de ressources. C'est la différence que nous avons, toujours sous condition de ressources, et avec cette idée qu'il y a ce lien avec le travail, avec
cette dignité. C'est ce que propose
Amand. Oui, mais pour les jeunes, là-dessus, je suis d'accord. Bien sûr, c'est 18-25 ans, mais c'est une revendication depuis que j'étais à l'UNEF en 1960. On a toujours demandé à ce qu'il puisse y avoir, sans condition de ressources, quelque chose qui permette aux jeunes de vivre et de faire des études en toute autonomie.
Y compris donc pour les petits-enfants qui sont en cours.
Mais oui, et là, avec le même argument. C'est-à-dire qu'en impôt, elle paiera ça. Parce que moi, je suis pour des prélèvements progressifs en impôts et une redistribution égalitaire à tout le monde. Je suis pareil pour les allocations familiales. C'est-à-dire qu'elles soient égalitaires.
Vous gérez votre temps tous comme vous le souhaitez, mais il y a déjà des grands écarts.
Je voudrais peut-être dire un mot sur la croissance.
Oui, mais on va...
Moi, je n'ai pas pu répondre sur l'emploi ni alors, sur le revenu de base.
Alors, si vous souhaitez répondre tout à fait, sachez que c'est un temps qui vous sera...
L'emploi et le revenu universel. Je suis très étonné d'abord qu'on parte d'un débat sur l'emploi, le chômage, et on arrive, excusez-moi, à tourner en rond autour du revenu de base. Comme si finalement, la seule réponse que la gauche aurait à apporter aux Français, parce que derrière les chiffres du chômage... Il y a des hommes et des femmes
qui perdent leur emploi. Il faut passer aux 32 heures et aux 30 heures.
Heureusement, les chiffres se sont un petit peu améliorés.
Il faut stopper la précarité. Pas plus de 5% par entreprise.
Inédite.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
le revenu universel qui est la réponse.
Je propose
le précaire par entreprise.
Le précaire.
C'est-à-dire CDD, intérim, etc. Et au-delà, ça peut être que pour des circonstances exceptionnelles avec une autorisation préalable de l'inspection. Évidemment, les réponses contre le chômage, c'est d'abord la réduction du temps de travail.
Alors, tout de même sur les. Alors, ils n'ont pas eu tellement le temps de développer sur les raisons philosophiques qui peuvent pousser au revenu de base, mais ces raisons philosophiques existent.
On veut personne qui soit dans la misère. Je suis pour un salaire pour tous.
C'est pas seulement, quand je vous parle des motifs philosophiques, c'est pas seulement ça. Les motifs philosophiques, c'est de dire, quoi qu'il arrive, la numérisation, le numérique, l'automatisation vont supprimer des emplois et vont supprimer des emplois pénibles. Des emplois pénibles, des emplois peu gratifiants.
Je conteste ça d'abord. Il y a eu des chiffres qui ont été donnés jusqu'à 43% de suppression d'emplois.
Et donc,
monsieur
Filoche, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Et donc, autant aller délibérément, volontairement, vers une société faisant davantage de place aux activités bénévoles, aux activités militantes, à tout ce qui contribue à l'enrichissement de la société et de la personne, et mettre en place un mécanisme qui permette aux gens de.
Le droit à une fonction sociale pour tous. C'est le droit à un emploi pour tous.
Pas forcément pour tous, pour ceux qui le souhaitent.
Écoutez, tout le monde souhaite avoir une fonction sociale. Et cette fonction sociale doit être rémunérée par un salaire. Et le salaire, celui qui le paye, c'est-à-dire celui qui en tire profit, il doit payer la protection sociale.
Alors attendez, quelle est la différence ? Alors, on va les écouter un peu.
Que nous abaissions la CSG jusqu'à presque un 13e mois pour une personne au SMIC, ce serait non seulement justice, mais c'est aussi une manière de faire ce que tous les pays du monde qui ont retrouvé la croissance, l'emploi, ont fait.
Je voudrais vous dire, abaisser la CSG jusqu'à 13e mois, ça veut dire
baisser le salaire brut, en fait. Et en faisant une augmentation du salaire net, je suis tout à fait contre ça. Le seul salaire qui compte, c'est le salaire brut. Parce qu'il appartient aussi, quelque part. Il est mutualisé, il revient pour le chômage, la maladie, le logement, la retraite, etc., l'accident du travail. Donc quand on dit on baisse quelque part le salaire brut, donc la CSG qu'en est une des composantes, alors ça n'est pas la solution. La solution, c'est d'augmenter les salaires et de prendre sur les dividendes.
On a commencé à imaginer de prélever 400 milliards, l'équivalent du budget de l'État, pour le redistribuer à tout le monde, que nous pourrions remettre en marche la machine économique.
Vincent Payon, vous vouliez réagir tout à l'heure. Vous avez, vous aussi, un plan de bataille pour la croissance et pour l'emploi ?
Oui, je crois, parce que le revenu d'existence dont vous avez parlé n'est précisément pas ce qui pourrait créer des emplois. C'est même l'inverse. C'est le moment où on se dit... Il n'y aura plus d'emploi, et le raisonnement est basé d'ailleurs sur une idée tout à fait fausse, que la modernité va faire qu'il y aura de moins en moins d'emplois. Non,
Il y a des emplois qui se détruisent. Il y a des emplois
qui se créent.
On en crée même plus
aujourd'hui en
France qu'il ne se détruise. Parce qu'on a déjà eu la machinisation, l'automatisation, l'informatisation, et les emplois ont doublé. Et la numérisation créera de nouveaux emplois.
Le low cost,
à terme.
Précarité des travailleurs.
À terme, c'est un processus. Et ce n'est pas vrai qu'on doit dire on renonce à partager l'activité sociale et professionnelle dans un pays. La Constitution française, c'est le droit à l'emploi pour tous.
Sur la recherche, on a un point de moins, 30% de moins d'investissement dans la recherche et l'innovation que ceux qui nous entourent. Il faut ensuite, et c'est juste, redonner du pouvoir d'achat. C'est pour ça que
pourquoi
je propose un bouclier fiscal pour les plus modestes. Ceux qui payent les
premières choses, c'est le salaire, le SMIC.
De l'impôt sur le revenu.
Ah, pas encore,
ou ceux qui ne payent pas du tout. 16 millions de foyers français ont vu leurs impôts locaux considérablement augmenter. On avait fait dans ce pays un bouclier fiscal pour les plus riches. J'en veux un pour ceux qui ont le moins. Il faut aussi
il faut 20 tranches d'impôts progressives et au-dessus de 20 fois, paf,
on a déjà
on prend une tranche à 90% comme faisait Roosevelt.
Il faut fondre l'impôt sur le revenu avec la CSG. Sinon, le Conseil constitutionnel ne sera pas d'accord. Il faut aider l'économie sociale et solidaire.
Donc,
il faut faire en sorte que
un impôt beaucoup plus progressif
permette de créer des emplois plus progressifs.
Avec des classes moyennes qui
et pourquoi ça
n'a
pas été fait pendant 5 ans
caissés,
c'était en programme du Bourget,
je parle de 16 millions de foyers pour la taxe d'habitation. C'est les gens qui sont à 1600 euros.
Faut pas promettre ce qu'on n'a pas été capable de faire là pendant 5 ans.
Ce sont déjà les classes moyennes
qui étaient concernés, qui étaient dans le gouvernement.
Médian, et la CSG permettra de redistribuer de l'argent. Vous savez, on va aller plus loin. La grande réforme fiscale, c'est que l'on cesse et que l'on sorte d'une société d'héritiers pour arriver à une société du travail. Et c'est pour ça que j'ai proposé une réforme importante sur la transmission des patrimoines.
Et pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC, non ?
C'est
une revendication de la Confédération européenne des syndicats.
Qui arrivent à bien vivre, c'est ceux qui héritent. Et ça aussi, il faut le changer.
Merci. Manuel Valls, pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, vous proposez de défiscaliser les heures supplémentaires. Alors on le sait, c'était une mesure
du Sarkozy,
de Nicolas Sarkozy que la gauche a supprimée. Ça veut donc dire que dans votre esprit, pour gagner plus, il n'y a pas d'autre solution que de travailler plus.
Mais ça, ce sont les slogans faciles. Et je ne veux pas me laisser enfermer dans ce type de questionnement. Parce que nous parlons de choses sérieuses, de l'économie. Donc il faut investir, rémunérer le travail.
Les autres
ne
parlent pas sérieusement.
Il faut aussi maîtriser la dépense publique. Et enfin, il faut financer les grandes priorités. La sécurité des Français, l'école, c'est-à-dire l'avenir. La santé, c'est le premier sujet de préoccupation.
On va y venir.
La caisse de protection sociale, elles sont équilibrées,
c'est une
hélas.
Et puis,
parce que ça a été verrouillé.
Il faut donner du pouvoir d'achat. Et comment on donne du pouvoir d'achat ? Par l'augmentation de salaire. Ça a été possible aussi grâce au CICE dans certaines entreprises, dans beaucoup de PME.
Pratiquement pas.
Ça n'a pas été dit ce soir.
Pratiquement pas.
Par
tout a été capté par les entreprises du haut et placé dans la finance, puisque les dividendes sont à 57 points. Record de dividendes l'année dernière.
Entre 2010 et 2014. Et c'est sous mon gouvernement que nous avons amorcé la baisse de la fiscalité pour ces classes sociales, pour ces couches moyennes et populaires.
D'abord, elles ont été augmentées parce que c'était l'héritage de Sarkozy.
12 millions
et ensuite, il n'y a pas eu de progressivité. Il y a 4 tranches alors qu'il en faudrait 20 tranches.
5 milliards d'euros les impôts pour les ménages.
Si on est concret, je viens de vous le dire, je ne vous dis pas le contraire. Donc ne le répétez pas, nous l'avons assumé. Mais il fallait en effet amorcer cette décrue depuis 2010
surtout
avec le gouvernement
de baisser l'impôt des grandes multinationales, l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA alors qu'il avait été promis que la TVA ne serait pas augmentée. Et la TVA, c'est les pauvres et tout le monde qui la paye de façon injuste parce qu'elle est absolument proportionnelle et elle n'est pas progressive.
De redonner du pouvoir
d'achat. Et la TVA, c'est la majeure partie de ce qui revient maintenant dans les caisses de l'État au détriment de l'impôt sur le revenu qui est trop bas.
D'ouvriers et de fonctionnaires, quand cette mesure est tombée en 2012, nous l'avions défendue, on dit mais on perd du pouvoir d'achat. On perd ce pouvoir d'achat si utile. Et ça concernait des gens particulièrement modestes, des enseignants, des ouvriers, des salariés dans notre industrie. Donc oui, quand on s'est trompé, il faut reconnaître une erreur. Et je fais
on baissera la TVA. C'était le programme du Bourget,
remettre les pendules,
programme 2011.
C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels les 7 candidats, 6 candidats et une candidate, sur des sujets comme l'emploi, le pouvoir d'achat, peuvent parler de la même manière. Et déjà, le retard accumulé par ce qu'on appelle les trois petits candidats, je m'en excuse auprès de mes deux collègues, c'est quand même beaucoup. Je veux dire, il n'y a pas que des sujets annexes.
Justement, on allait donner la parole à Sylvia Piquet.
Je vous le dis quand même, il n'y a pas ici des candidats qui ont sur la parole sur les grands sujets et d'autres qui parleraient de sujets annexes. Je vous le dis car, pendant la campagne et depuis le démarrage de la campagne, ça a été un peu trop souvent le cas. Et je ne revendique rien. Je dis que nous avons autant d'idées à cette tribune que l'ensemble des candidats. porte-parole dont ont bénéficié les petits candidats étaient moins élevés, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque les chronomètres le confirment quand TF1 nous les montre.
Monsieur Benabès, il y a un juge de paix absolu ici qui est le chronomètre.
Ah oui, mais justement, les chronomètres indiquent que les petits candidats ont parlé moins longtemps.
Je laisse Mme Pinel totalement répondre.
Et nous reviendrons vous voir dans un court instant. Puisqu'on parle de pouvoir d'achat, Sylvia Pinel, il y a quelques semaines, le gouvernement de Manuel Valls, ici présent, a refusé d'accorder un coup de pouce au SMIC. Si vous êtes élu présidente de la République, est-ce que vous augmenterez le salaire minimum ?
SMIC, Gérard Filoche,
et de combien et quand ?
D'abord, ce qui est important, c'est que l'on puisse relancer notre économie pour créer davantage d'emplois. Et ça passe par le soutien aux entreprises que j'évoquais. Pour revaloriser le SMIC, il faut que les conditions d'une reprise économique soient beaucoup plus durables, beaucoup plus fortes.
Donc Sylvia Pinel embrasse couler sur le SMIC.
Le plus sera sûrement nécessaire. Mais ce que je crois important, au moment où nous parlons, lorsque nous voyons la situation de nos compatriotes, c'est bien de relancer cette économie en permettant aux entreprises de recruter davantage de salariés.
Les marges aux entreprises n'ont jamais été aussi importantes.
Ça veut dire quoi ?
Les dividendes aussi gros.
Les TPE,
alors qu'est-ce qu'il faut de plus ?
Ces artisans, ces commerçants qui, sur nos territoires,
je parle pas des petites entreprises. Les petites entreprises, elles sont pillées par les moyennes qui sont pillées par les grandes. C'est un problème de siphonnement. Pas un problème d'ordre distribution, d'ordre ruissellement, ils siphonnent.
Que l'entreprise se réforme.
Donc il faut savoir mettre un haut là.
La précarité,
faut mettre des mesures pour réguler la sous-traitance.
Recrutement en CDI.
Il faut frapper d'impôt total.
Écoutez, Sylvia Pinel,
traverse une période difficile. On puisse faire en sorte que, en contrepartie des efforts que l'on demande aux salariés sur leurs conditions de travail ou leur rémunération, il y ait obligatoirement une clause d'intéressement lorsque la situation de l'entreprise s'améliore. C'est avec des mesures qui permettront l'investissement. On pourrait parler aussi des mesures en faveur du logement qui créent beaucoup d'emplois et beaucoup de croissance qui seront indispensables d'être poursuivies. Le plan de relance que nous avions initié en accentuant l'effort sur la rénovation, la réhabilitation. C'est donc en investissant sur les TPE, les PME et toutes les entreprises.
Jean-Luc Benabias,
il y a 1 million de TPE, il y a 200 000 PME, il y a 1 000 entreprises de PME.
Mathieu Croissant-Beaulieu a posé une question.
L'idée qui est pour moi une des seules idées nouvelles ces 30 dernières années,
c'est
notre faute.
J'entends bien les positions. J'entends bien la complexité. Je pense que Benoît le défend à peu près de la même manière que moi, mais on sait bien que c'est complexe. Je pense que Manuel, quand il propose
directe,
de faire que les allocations soient regroupées, va à peu près dans le même sens. Je dis que pour la relance de la consommation, et moi je suis pour une relance de la consommation sobre, parce que je crois que la croissance à 2, à 3, à 4 ou à 5% dans nos pays occidentaux, c'est terminé, il faut dire la vérité. D'ailleurs, les Français le savent, et donc nos proches européens le savent aussi, quand vous disiez tout à l'heure que la croissance était relancée. Certes, nous sommes à une croissance d'1,4, les différents pays européens sont à 2,2. Je dis que par rapport à cela, le modèle de société dans laquelle nous allons rentrer, et c'est pas un modèle du non-travail, c'est un modèle d'un autre travail, d'un autre mode d'activité.
C'est un modèle où l'État, par le biais du revenu universel, augmente le pouvoir d'achat.
L'État et l'Union européenne renouvelée dont je parlais tout à l'heure. Car l'Union européenne, pour moi, doit engager, dans les 5 ans qui viennent, 1 000 milliards d'euros de produits d'investissement. L'Union européenne n'est pas endettée. La Banque centrale européenne n'est pas endettée. La Banque européenne d'investissement n'est pas endettée. Dans ce cadre-là, il y a de quoi faire par rapport à l'investissement. Je reviens sur ce que dit Mme Pinel, parce que tu as raison. Tu as raison sur les TPE et PME. On promet à chaque présidentielle de s'en occuper. Puis après, on oublie. Parce que le CICE a surtout servi, malheureusement, Manuel, surtout servi aux grandes entreprises. Je ne dis pas que le gouvernement l'a fait exprès. Je dis que c'est comme ça. Et je dis que par rapport à cela, nous devons utiliser les moyens d'investissement par rapport à la modernité, par rapport au mode de production, en troisième dimension, par rapport à la robotisation.
Jean-Luc Benhamias.
Je finis juste là. Oui. Aux PME, aux TPE, d'investir dans la modernité.
Alors, François Drugy, vos propositions
en même temps,
de pouvoir d'achat, je rappelle...
Un petit point, que vous êtes déjà plus de 1 000 à nous suivre sur YouTube.
Certains candidats.
Et beaucoup aussi sur Facebook.
Des dépenses supplémentaires. À tout va, je me dis que les politiques sortent le carnet de chèques de l'État et que l'étape d'après, c'est que les Français vont sortir leur carnet de chèques pour payer les impôts et les taxes supplémentaires qui vont venir éponger ces trous. Donc je dis attention, quand on promet tout un tas de dépenses supplémentaires, il faut dire mais comment
la France n'a jamais été aussi riche de Rugy. Jamais.
Aussi que si
les 400.
Ah, ils veulent pas entendre.
500 milliards. Ah,
vous avez beau leur répéter, ils veulent pas entendre.
Ah, c'est
terrible.
C'est quand même là que ça commence. 80 milliards de fraude fiscale, 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Les multinationales blanchissent 100 milliards par an. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent au lieu de dire que c'est les Français qui vont payer.
Je note d'ailleurs que ce sujet-là n'a pas encore été abordé par aucun des sept.
D'impôts et de taxes. Et on déjà.
Le sujet de l'évasion fiscale.
C'est le premier. Hein. Moi, j'étais à Dax à soutenir les faucheurs de chaises l'autre jour contre la BNP Paribas et il y avait des milliers de gens là qui étaient là. Ça, tout le monde sait que l'argent est là. Il faut aller le chercher parce qu'après, ça simplifie beaucoup des problèmes qu'ils disent. Notamment l'augmentation des salaires. Notamment la réduction du temps de travail.
C'est véritablement une question que je me pose. Comment se fait-il que ce sujet soit si peu repris?
Parce que c'est celui où on se heurte à la haute. Celui où on se heurte à l'oligarchie. On leur dit que c'est vrai, oui, on va leur prendre de l'argent. Pas aux petits, pas aux moyens, mais à ceux d'en haut. Et que la distribution des richesses, c'est par là qu'il faut commencer.
Philoche, demain ou après-demain, vous allez devoir choisir entre Montebourg et Hamon. Oui. Aucun des deux candidats entre lesquels vous allez devoir choisir n'a abordé ce sujet de l'évasion fiscale.
Je vais discuter avec eux aussi.
Et la fiscalité, c'est en effet aussi de pouvoir d'achat.
C'est vrai, je regrette. Moi, j'aurais commencé par ça. Première chose, la France est riche. Comment on répartit les richesses? Et on arrête de faire ce qu'on a fait depuis 5 ans.
Des prélèvements obligatoires. Benoît Hamon, dans votre programme, vous promettez d'augmenter les fonctionnaires, d'embaucher 37 000 enseignants, d'augmenter de 10% les minima sociaux, c'est du pouvoir d'achat, et pour cela,
c'est là qu'il faut répondre.
Vous souhaitez augmenter les impôts des catégories les plus aisées. Ça fait lien avec ce que disait François de Rugy. Le ras-le-bol fiscal, pour vous,
il n'existe pas en France.
Il ne faut pas y répondre.
De qui ?
L'impôt, les Français concentrent quand il est juste. Ce qui est scandaleux, ce sont que les géants du numérique n'aient payé que 14 millions d'impôts sur les bénéfices des sociétés.
Il vous a entendu.
Ce qui est injuste, c'est que les grandes entreprises du CAC 40 payent 8% d'impôts sur les bénéfices des sociétés à raison de stratégies d'optimisation fiscale que les PME payent.
Un peu
beaucoup.
De patience.
Ce qui est injuste, c'est quand les classes moyennes payent de l'impôt alors que les plus riches, eux aussi, trouvent à échapper à l'impôt.
Les
réformes fiscales que je proposerai, Madame Martichoux, sont pour en cohérence avec l'analyse que je fais de la réforme.
98% des salariés gagnent moins de 3200 euros net. 98% des salariés gagnent moins de 3200 euros.
Je vous pose la question, Martin.
Les riches, c'est les 1% des gens qui possèdent les moyens de production, qui possèdent la rente, qui possèdent la terre, qui possèdent l'immobilier.
Vous ne le définissez pas par un niveau de revenu ou de patrimoine.
99% contre 1%.
Vous le définissez par un pourcentage de population, mais pas par un niveau de revenu ou de patrimoine.
Il y a 18 milliardaires en France, il y en a deux qui possèdent plus que 20 millions de Français.
Les cotisations sociales patronales sont assises sur le travail. Le nombre de salariés qui
viennent
dans une entreprise et non pas la richesse produite, il me semble légitime que nous nous engageons dans une transformation de la fiscalité qui pèse aujourd'hui à travers les cotisations sociales patronales pour faire en sorte qu'elle pèse sur la valeur ajoutée, la richesse produite et plus le nombre de salariés. En clair, nous faisons payer les robots dès lors qu'ils contribuent à la richesse et nous changeons ainsi l'assiette du financement de la sécurité sociale. C'est une des réformes que je
fais. Mais c'est intéressant. C'est quoi les plus aisés? Vous voulez augmenter les impôts des catégories de Français les plus aisés? Je sais que c'est une question qui peut vous...
Non, mais du revenu universel d'existence qui est parfaitement bonne. Qui nous amène d'ailleurs au passage, je le redis, à entendre hier matin un grand économiste les personnes étudiantes, Daniel Cohen, dire que c'était parfaitement réalisable. Ce que moi je propose, ce que je propose, Madame Martichoux, soit on peut poser ses propositions et tranquillement, on a à chaque fois une minute. Si vous nous coupez au milieu, c'est compliqué.
Ce que je propose
aujourd'hui dans la réforme de la fiscalité, c'est d'abord de fusionner la fiscalité sur le patrimoine, de faire en sorte que l'ISF et la taxe foncière soient réunis dans un impôt sur l'actif net. Je propose d'ailleurs qu'il contribue à la première étape du financement du revenu universel d'existence pour les jeunes. Deuxième proposition, l'évolution de l'impôt sur le revenu à travers la fusion avec la CSG. Et là encore, il ne sera plus juste qu'à condition qu'il
la CSG n'est pas un impôt, c'est une contribution. Elle est affectée à la sécurité sociale, qui est de droit privé. Donc on n'additionne pas ça dans les prélèvements obligatoires ni publics, parce que l'impôt n'est pas la même chose que la cotisation. Il y a trois budgets en France totalement différents.
Et populaire. J'ai deux questions. La première, c'est qui ça concerne exactement? La seconde, c'est moins d'impôts, c'est moins de recettes pour l'État. Et comment on tient l'objectif des 3% de déficit que nous fixons?
plus de recettes pour l'État. 78,5% du budget vient
de la dette vient du budget. Que le seul impôt que je m'autorise à augmenter est un impôt sur les profits et super profits des banques.
Là, on est d'accord.
Les banques sont revenues à la rentabilité et ont réalisé l'année dernière 22,9 milliards de profits. Ouais. La France n'est pas revenue
les principales banques françaises ont 8 000 milliards d'actifs.
Donc nous allons leur demander de financer mon plan de bataille contre le chômage. Alors prenons 5 milliards chaque année. Je vais diminuer le CICE, car le CICE a été profitable pour les PME qui ont obtenu de l'oxygène.
Ils le savent très bien.
Mais les grands groupes, la grande distribution, l'assurance, la banque n'en a absolument pas besoin. Et cet argent va servir à financer l'effacement des hausses d'impôts, pour moi excessives, sur les classes moyennes et les classes populaires. Je voudrais d'ailleurs dire que la question du chômage, puisque nous en parlons, pour moi, doit se traiter, car il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs dans notre pays.
6 millions, c'est une réalité. 6 millions
et demi, monsieur Montebourg.
Enfin, toutes catégories confondues.
Dans les statistiques, selon les uns et les autres, enfin, vous avez raison.
6 millions et demi, toutes catégories confondues.
Toutes catégories.
3 millions et demi en catégorie A, celle dont nous parlions.
Aussi, vous avez entendu,
oui,
hein.
Donc, si on est entre, selon avis, les
vous
catégories.
Écoute, mais vous dire une chose. Ils ont en reste sur l'image dans l'oreillette.
Importante. Hein. Pour moi, la manière de changer de système et de système économique et social, c'est d'utiliser l'argent de la formation professionnelle, qui aujourd'hui n'est destiné qu'à 15% pour les chômeurs, et de l'utiliser pour que chaque personne qui perd son emploi ne passe plus dans la case, par la case angoissante du chômage. Et qu'un contrat de formation lui soit proposé pour 18 mois, 1 an, 2 ans, et que la société fasse en sorte qu'il soit proposé à chaque Français qui perd son emploi la possibilité de refaire sa vie professionnelle et d'en faire une occasion de reformuler un projet pour lui-même. Et je proposerai également, avec l'argent du chômage qui aujourd'hui est utilisé pour aider les populations qui sont notamment en longue durée, ce qui est une source de désespoir dans de nombreuses familles, je proposerai
que nous
généralisions la proposition innovante d'ATD Quart-Monde, le contrat d'activité, qui permet sur les territoires de rentabiliser des activités pour de très nombreuses personnes et faire en sorte que des personnes qui sont au chômage puissent obtenir un contrat à durée indéterminée.
Une opinion sur cette proposition
d'ATD
Quart-Monde, vous
cela
la connaissez?
Non, mais si c'est une activité, elle peut être salariée, là aussi.
Travail,
ça dépend de ce qu'on entend, par les entreprises, les coopératives ou les entreprises qui sont créées pour le faire. Mais là aussi, c'est un salaire, c'est le SMIC. On ne peut pas tricher avec la vie des gens.
L'objectif des 3% n'est, pour moi, pas un objectif politique. Pour une raison simple, c'est que s'il est dans les traités, d'ailleurs, il a été désavoué par les Français. En 2005, lorsqu'ils ont voté non, et il n'y avait pas de mandat pour que nous l'acceptions à nous.
Bravo.
Par ailleurs, c'est une règle absurde et qui n'a pas de réalité économique. La totalité des pays du monde ne sont pas contraints par 3%. Nous aurions pu, d'ailleurs, décider 5. Donc l'idée est plutôt que nous occupions des chômeurs, de la société, des populations, plutôt que d'appliquer des règles archaïques, obsolètes et par ailleurs peu crédibles. Voilà ma position.
D'accord.
Et c'est une des raisons pour lesquelles...
Ces critères dits de Maastricht, moi j'ai voté contre Maastricht, contrairement à Mélenchon à l'époque.
Mais, avec l'Union européenne,
mais les critères de Maastricht ne valent rien de ce point de vue. Ils ne sont pas respectés, ils sont foulés aux pieds. Et c'est évidemment un des points qu'il faut contester.
Si vous jouez bien, à présent, un thème très important aux yeux des Français, celui de la santé et de la sécurité sociale. On en parlait brièvement il y a un instant.
C'est facile.
Depuis quelques jours,
une seule cotisation.
Et nous, on en parlait dans notre dernière émission. J'en profite pour faire un petit point pour vous qui vous demandez si tous les chiffres qui sont donnés jusqu'à maintenant sont plus ou moins exacts. On est en train de suivre en même temps que le débat le fil des décodeurs du monde qui pour l'instant n'ont rien trouvé de particulier à décoder, donc donne quitus à peu près tout ce qui s'est dit depuis le début de ce débat.
Et nous aussi, c'est bon. Et le moins sur la sécu,
je ne suis pas certain qu'ils nous écoutent, les décodeurs du monde.
Mais avant que... je suis pour une sécu, je suis contre le millefeuille, contre les complémentaires, les prévoyances, les assurances et les mutuelles. On a 1100 mutuelles. Le coût de gestion des mutuelles est de 25% en moyenne. Le fonctionnement de la sécurité sociale, c'est 5%. Je suis pour une seule grande sécurité sociale, avec une seule cotisation pour tout le monde, proportionnée, bien sûr. Et je suis pour la suppression du RSI pour les artisans et qu'il soit la sécurité sociale. Parce que ça ne marche pas.
Et vous êtes donc d'accord avec nos invités de la semaine dernière, Gilles Perret, l'auteur du très beau film La Sociale.
Oui, il est beau.
Et Frédéric Pierru, sociologue spécialiste des questions de santé.
Le reste sera pris en charge par les mutuelles. Je tiens, moi.
Vous dites comme bah, les mutuelles, les mutuelles. 1100 mutuelles, c'est de la gabegie. 1100 mutuelles. Elles sont à but non lucratif, mais 25% de dépenses.
Tout le monde passera par des mutuelles privées. Je tiens aux mutuelles mutualistes, celles qui font partie de l'économie sociale.
Il n'y en a qu'une.
Donc je dis.
C'est la sécu, c'est très bien, la grande.
Excusez-moi, c'est un peu choquant, mais je dois vous le dire.
C'est plus clair comme ça.
Oui, c'est mieux, merci. Non, vraiment. Non, je dis qu'il faut désengorger les services d'urgence, car c'est panique à bord et les salariés des services d'urgence.
Et pour ça, il faut arrêter de serrer la vis, de supprimer les postes dans les hôpitaux. Il faut recruter 25 000 infirmières au lieu de les supprimer.
Tout le monde le sait. De prendre
et favoriser l'installation de médecins.
Bien sûr. Lever le numerus clausus.
Lorsqu'elle était au pouvoir en l'an 2000.
Et la France est assez riche pour se permettre ça, encore une fois.
C'est d'avoir plus de professionnels. L'autre problème, c'est valoriser leur salaire. Des infirmières, des aides-soignantes. Je termine sur une chose. Je tiens à cette idée de dispensaire, parce qu'elle est, par rapport à des gens qui sont dans l'urgence, qui pensent être dans l'urgence. Je parle pas de la grippe difficile, je parle d'autres systèmes. Des parents qui arrivent avec leur gamin qui a une angine, une grippe, il n'y a personne, ils vont aux urgences. Des personnes qui s'occupent de personnes âgées, ils vont aux urgences. Je dis qu'il faut désengorger ce système.
Alors, toutes les questions qui concernent la santé sont brûlantes. Et celle-là en particulier, c'est celle des déserts médicaux. François Drugy, vous pensez que seule une mesure coercitive, une mesure de contrainte peut modifier la donne. Donc, vous obligerez, si j'ai bien compris votre programme, vous obligerez les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux.
Il faut les deux, il faut de la planification, il faut l'incitation.
Je l'ai lu de mon côté, j'ai lu la même chose qu'Elisabeth.
On ne les autoriserait plus à s'installer dans des régions où il y a trop de médecins.
Vous verrez le point 35 de mon, la 35e proposition de mon projet.
Vous n'écrivez pas que vous n'autoriserez plus les jeunes médecins à s'installer dans les régions en surcapacité médicale.
Justement, moi je fais le constat que les mesures coercitives, ni les gouvernements de droite, ni les gouvernements de gauche n'ont voulu les prendre. Donc on ne va pas croire que c'est en forçant les médecins à s'installer ici ou là que ça marchera. Deuxièmement, c'est plus uniquement avec le numerus clausus, puisque si vous élargissez, il faut le faire. Si le nombre d'étudiants qui
capacité de vérifier le
passer
35
un diplôme de médecine,
je ne sais pas, mais moi je pense qu'il faut mélanger les deux, c'est-à-dire des directives applicables et coercitives avec des incitations et une souplesse.
Les infirmières,
ça se négocie ces choses-là, mais avec beaucoup plus de volonté que ce que ça a été le cas jusqu'à présent.
Qui va trouver le plus vite le point 35 du programme de François Drugy, savoir s'il veut obliger les médecins à ne pas s'installer dans les zones les mieux pourvues.
Devraient s'installer de dans des endroits, mais parce qu'ils
ont des études en contrepartie.
S'installer dans des endroits où des retraités, des médecins qui prennent leur retraite, ne sont pas remplacés.
Mais c'est deux années d'études offertes par l'État et 10 ans dans un département où ils ne veulent pas aller.
Donnant. Mais non, mais c'est des personnes qui sont volontaires. Là, ce sont des volontaires.
Alors vous dites dans votre programme que c'est obligatoire.
Pour des gens qui ont eu une formation payée,
attendez.
Contrepartie. Mais ce ne sont pas les médecins généralistes. Mais par ailleurs, je suis pour qu'on dise très clairement, et moi je veux que là, nos positions aux uns et aux autres soient très claires
sur l'assurance maladie et les mutuelles.
Moi je suis pour qu'on maintienne le système actuel. François Fillon, la droite, elle est pour casser le système actuel, puisqu'elle veut transférer aux assurances privées une grande partie de la couverture maladie, et c'est très dangereux.
Tout transférer à la sécurité sociale.
Certains disent qu'il faudrait soit tout passer à l'assurance maladie, voire créer une mutuelle d'État. Alors là, je crois que tous les mutualistes de France doivent sursauter, parce que c'est contraire à l'esprit même des mutuelles, où c'est les gens qui s'associent.
C'est dénaturé, les directives européennes, c'est plus les mêmes mutuelles que dans le temps. C'est pour ça qu'il y en a 1100, qu'il y en a bien de trop. Et c'est pour ça qu'elles coûtent 25% de frais de fonctionnement. Même quand elles n'ont pas de but lucratif, il faut revenir, ouvrir les yeux. Le mutualiste d'aujourd'hui n'est plus celui qui existe.
Notamment grâce du fait de leurs dépenses de marketing, de publicité, de promotion.
Toutes les pubs que vous avez à la gare de l'Est, ça vous coûte.
Dans les autres aussi, pas seulement, je ne sais pas pourquoi la gare de l'Est.
Je sais pas, parce que c'est là qu'il y a Chevalier, la Spalès.
C'est pour ça.
Je les ai dans les yeux, je dis à chaque fois, mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ça?
Proposition, parce que lorsque il est évident que nous voulons protéger le service public de santé et faire en sorte que nos compatriotes puissent avoir accès à des soins de qualité.
Je voulais dire quand même.
Je ne vais pas la couper, mais vous la coupez quand même.
Pardon.
Allez-y.
Non, mais je voulais dire qu'il fallait lever le numerus clausus, qu'il faut plus de médecins. Et que moi, je suis pour exporter des médecins à l'étranger plutôt que de faire venir des médecins étrangers chez nous, alors qu'il y en a tant besoin dans leur propre pays. C'est une politique de développement de la médecine.
Vous l'avez dit maintenant, on est toute
Sylvie Pinel. La droite, le programme de François Fillon est extrêmement dangereux, puisque lorsqu'on annonce la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires, il est évident que l'hôpital public sera un des gros contributeurs à cette proposition, ce qui n'est évidemment pas la mienne. Moi, ce que je souhaite, c'est donc préserver ce modèle de santé efficace, poursuivre les efforts que nous avons entrepris sur la chirurgie ambulatoire, sur la généralisation des génériques, mais aussi essayer de cette nouvelle méthode qui permettra de lutter contre le gaspillage de médicaments. Et j'ajoute en ce qui concerne les déserts médicaux, parce que dans les territoires ruraux, cela est une vraie préoccupation des Françaises et des Français, et qu'il faut poursuivre les efforts que nous avons pu entreprendre en accompagnant les maisons de santé pluridisciplinaires, en renforçant les bourses d'engagement pour le service public, à la fois dans les maisons de santé, mais aussi dans les hôpitaux de proximité qui peinent souvent à recruter des professionnels de santé. Donc il faut avoir une vision à la fois pour l'hôpital public, mais aussi pour ces territoires que l'on ne doit pas oublier.
Alors les décodeurs du monde viennent de décoder Montebourg. Montebourg avait affirmé que la baisse de pouvoir d'achat est de 580 euros de moins par an par ménage ces dernières années. En réalité, sur les trois dernières années, elle ne serait que de 150 euros en moyenne, signé Le Monde.
Que la gauche pourra gagner et battre la droite si elle arrive en disant...
Une chose qui est certaine, c'est que dans les 20-30 dernières années, les salaires ont perdu 10 points par rapport au profit.
Et
que toute politique de gauche, elle doit rétablir ça.
L'Allemagne a plus de robots que nous, elle a plus d'emplois, elle a plus de croissance. Les robots, c'est délocalisable. Si l'on additionne tout ça, ça veut dire qu'on ne veut pas battre François Fillon. Et ça m'inquiète. Inversement, je pense, et c'est l'enjeu de ceux qui nous regardent, ils veulent que la gauche puisse gouverner à gauche. Je reviens sur les heures supplémentaires. Quelle cohérence y aurait-il à avoir dans la loi travail, autoriser les entreprises à baisser la rémunération
de 25
des heures supplémentaires
à 10%, ce qui est
scandaleux, pour après vouloir les augmenter, mais les faire payer par
les salariés eux-mêmes,
par tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas
ça, c'est une pierre contre Valls.
La tâche qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de faire comprendre
sur
à tous ceux qui nous attendent.
Et la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça consiste à faire faire plus d'heures à ceux qui ont déjà un boulot au détriment de ceux qui n'en ont pas. Et de faire payer ça par les impôts des salariés qui payent ces heures sup à la place des patrons.
Non, la gauche peut gouverner sérieusement.
Alors, sur la Sécu, concrètement.
Oui, mais pour l'instant, il n'y avait pas de débat sur des questions essentielles. Sur la sécurité sociale, je pense profondément que l'erreur majeure de François Fillon. La sécurité sociale, on en a hérité du Conseil national de la Résistance. C'est notre bien commun.
Elle fait que les Français... Monsieur Payan.
Le plus précieux.
Pardon ? C'était en 1945, l'espérance de vie a beaucoup augmenté depuis. Et convenez que la Commission des comptes de la Sécurité sociale a dit il y a quelques semaines que le déficit était grave et inquiétant.
Mais c'est pas vrai, journaliste, c'est pas vrai. Le budget de la protection sociale, c'est celui qui génère le moins de dettes. C'est celui qui est le plus équilibré. Et pourtant, il aurait des raisons de ne pas l'être. Il y a 6 millions de chômeurs. Donc en vérité, il faudrait là un budget d'équilibré et plus de dettes.
Si la seule solution, c'est faire de plus payer ceux qui ont le moins...
Merci de dévoiler ainsi la fausse neutralité parfois des questions de journalistes. C'est comme de cette question de Gilles Boulot de TF1.
Comme ils sont attachés à la laïcité. Et donc, la sécurité sociale, bien entendu, elle doit permettre de faire en sorte que tous les Français, sans distinction de moyens, puissent être soignés comme ils le sont. Il y a des gens qui viennent en France de très loin. Et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Votre pays a une grande attractivité, y compris économique. Pourquoi ? Parce que vous avez d'excellents services publics. On y est bien éduqué, on y est bien soigné. Et en France, quand quelque chose marche bien, regardez l'hôpital public. On veut l'abîmer. Je ne suis pas.
Oui, parce qu'on veut le faire fonctionner comme une entreprise. C'était le système de la T2A. C'est un système de rentabilité. C'est un système de calcul de paiement comptable qui fait fonctionner l'hôpital comme une entreprise. Je le dis rapidement. Mon ami Grimaldi, il dirait mieux.
Massivement, y compris pour désengorger nos urgences. Ce sera incitatif par des baisses de cotisations et par des baisses d'impôts. Ça doit s'adresser aux 20 000 médecins qui sont les médecins remplaçants, aux internes qui ont le droit d'exercer et à ceux qui sont à la retraite. Mais jamais, jamais, aucun de nous ici n'acceptera que les Français se soignent en fonction de leur capacité contributive. Tu es riche, tu es bien soigné, tu es pauvre, tu ne l'es pas. Ce serait atteindre au pacte républicain et social que nous défendons et qui est véritablement dans notre ADN.
Sur ce point, si c'est clair. Bien,
mais alors, il ne fallait pas faire tout ce que Marisol Touraine a fait. Le tiers payant, ça, c'était bien. Par contre, le fait qu'on ne s'attaque pas on fasse des complémentaires, des mutuelles, etc., ça, c'est pas bien.
Le code du travail.
Voilà. Le grand progrès de la Sécu, c'est de revenir à la Sécu.
Notamment tempêté contre cette loi qui passe 49.3.
Le grand progrès de la Sécu, c'est de revenir à la Sécu.
Lorsque vous étiez Premier ministre, dans votre propre camp, certains disent que cette loi est une loi de droite. Il y a aussi eu tout à l'heure, il y a quelques instants, une accusation d'incohérence d'ailleurs par rapport entre cette loi et des propositions d'aujourd'hui.
Personne ne demandait cette loi, Hollande. Personne l'a demandé à Valls. Valls, au début, il a dit je ne vais pas faire une réforme, je vais faire une révolution.
C'est toujours un vieux débat. D'abord, il ne m'intéresse pas.
Non, mais c'est un débat qui a occupé cinq mois. François Hollande a dit que c'était la loi la plus controversée de ce quinquennat.
Bah oui, j'éprouve un.
C'est la loi la plus révolutionnaire. Même la droite n'avait pas osé faire cette loi.
Les grands enjeux de l'élection présidentielle sont à peine posés. Sur la santé, nous l'avons abordé il y a un instant, ou sur la sécurité sociale, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mais revenir sur ma proposition de supprimer, en effet, le numerus clausus, parce que nous devons avoir plus de médecins, d'avoir une politique plus ferme d'installation des jeunes médecins, et de faire de la prévention dans le domaine de la santé une priorité. Nous aurons l'occasion aujourd'hui et une autre fois, dans un autre débat, d'évoquer la question essentielle qui est celle de la santé environnementale. Mais il n'y a pas de débat, au fond, entre nous véritablement, sur la sécurité sociale ou sur la santé, parce que nous sommes tous attachés à ce pilier fondamental de la République, mais en revanche,
c'est pas les complémentaires.
Et vous l'esquissiez un peu tout à l'heure, d'ailleurs.
Introduit par la NIE, pas les complémentaires.
Publiques, pour l'école, pour la culture, pour l'assurance maladie, pour soigner tout le monde. C'est cette sécurité sociale universelle et continue.
Ah bah alors, si c'est universel, il n'y a pas besoin de cinq systèmes de paiement différents. Un seul système de cotisation.
J'entends évoquer l'idée même d'abrogation. Ici, parmi les candidats, nous voulons abroger quoi? Nous voulons abroger quoi? La négociation dans l'entreprise? Soutenu par
on veut que la loi, l'état de droit l'emporte dans l'entreprise.
Je le disais tout à l'heure.
Le droit du travail, c'est le droit des humains et du travail. Ce n'est pas la subordination de ce droit aux entreprises.
Les salariés qui travaillent dur et qui doivent pouvoir partir plus tôt à la retraite. La garantie jeune qui concerne
la retraite, c'est quelques centaines de milliers. Il y en a des millions qui partent à 63, 75, 66 ans maintenant.
Les explications ratées, je les ai bien sûr assumées. Mais cette loi, à travers les quelques exemples que je viens de prendre...
Quoi, la baisse des heures supplémentaires de 25 à 10%.
Et dans le domaine de la formation, ça va être intéressant de voir lequel des autres va attaquer
cette formation tout au long de la vie, puisque les métiers changent, parce qu'il y a cette révolution du numérique.
C'est pas vrai. Cette loi, c'était pour subordonner les aspirations des humains aux exigences des patrons. C'est tout.
La fameuse loi M. Khomri est contre l'emploi et contre le pouvoir d'achat. Si vous êtes élu président de la République,
sûr,
vous êtes
l'emploi.
Engagé à abroger immédiatement... Alors,
un bon code du travail, ça fait de l'emploi. Un mauvais code du travail, ça fait du chômage.
Intouchable.
Il faut contrôler les licenciements, pas faciliter
les salariés de la Voix du Nord. Le plan social proposé par leur entreprise avant l'application de la loi El Khomri avait été refusé. Il a été autorisé car désormais, la loi El Khomri le permet, 178 personnes vont peut-être être licenciés à raison de ce plan social.
Et on parle là
donc oui, il y a des dispositions dans la loi El Khomri qui facilitent le licenciement et qui vont fragiliser les salariés au moment où ils cherchent à préserver leur emploi.
Pourquoi Airbus
c'est une des raisons pour lesquelles je veux abroger cette loi, comme le fait qu'aujourd'hui, on facilite...
Toute la loi.
Je vais au bout, s'il vous plaît. On facilite le recours à des heures supplémentaires moins bien payées par simple accord d'entreprise. Je veux rétablir la hiérarchie des normes, je veux en finir avec ces dispositions et je veux de surcroît repenser l'organisation du travail de façon à ce qu'on facilite. Nous évoquions tout à l'heure la manière dont le CICE, le pacte de responsabilité, pourrait être utilisé pour réduire le temps de travail et créer des emplois. Et enfin, introduire une mesure qui, en tout cas, une réforme que je crois très attendue. La reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles. La réalité du travail aujourd'hui tel qu'il se partage, c'est que beaucoup n'ont pas de travail et aimeraient travailler plus, mais beaucoup d'autres ont du travail mais sont surmenés. Et ces pathologies psychiques liées au travail, ce qu'on appelle le burn-out, n'ont cessé de se développer, n'ont aucune forme de reconnaissance. Alors oui, dans la loi travail,
La loi El Khomri, elle supprime quasiment la médecine du travail. Elle affaiblit l'inspection du travail. Elle supprime quasiment une partie des possibilités d'action des prud'hommes.
Elle a fondamentalement posé une mise en cause de la hiérarchie des normes. Faciliter la baisse
du plus de médecine du travail.
Quelle est passée son légitimité démocratique? Ni celle du soutien d'une majorité d'organisations représentatives des salariés, ni celle du Sénat et de l'Assemblée, ni celle
de l'opinion.
Plus de
comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail et pas moins.
Il
faut que les comités entreprises aient plus de pouvoir et pas moins.
Une loi qui se préoccupe des conditions d'amélioration.
Les délégués du personnel, ils ont aussi plus de pouvoir et pas moins.
C'est un engagement.
Quand on veut construire une économie, on s'appuie sur les salariés. Parce que c'est eux qui produisent les richesses. Ils ne reçoivent pas la part qu'ils méritent. Mais il faut faire confiance aux salariats quand on veut sortir d'une crise. Et pas le casser comme Valls a fait, pardon.
Elle n'a pas été discutée avec les organisations syndicales et elle n'a pas été discutée par le Parlement puisqu'il y a eu une sorte de coup de force à travers l'usage du 49.3. Ça, c'est le premier problème. Donc il est absolument impossible de faire une loi pour 29 millions de salariés sans discuter avec les représentants des 10 salariés dans les syndicats et les représentants des salariés au Parlement.
Vous l'abrogez dans sa totalité, vous ne gardez rien du compte personnel d'activité.
Je vais vous dire pourquoi jeunes. Nous allons devoir l'abroger. D'abord parce qu'elle organise la concurrence entre les entreprises d'une même
absolument.
Branche, d'un même secteur,
absolument.
À la baisse sur le niveau des rémunérations
fait
des
du dumping
salariés.
Social.
Et je pense, comme l'a fait Benoît Hamon
de
à l'instant,
et ben, il y aura
aux salariés de
par
Smart,
le bas, comme entre
en Moselle,
d'autres pays.
Qui ont été finalement obligés d'accepter des baisses davantage, sous le chantage à la délocalisation, provoquant ainsi un référendum où ils étaient en quelque sorte sommés de prendre une position. Soit je perds mon emploi, soit je suis obligé d'accepter des réductions davantage, notamment temps de travail et salaire. Donc il faut des branches pour protéger cette concurrence à la baisse qui finalement met les salariés en situation de pression indue. C'est le sens du droit du travail. Et la hiérarchie des normes, telle qu'elle a été conçue dans l'histoire du droit du travail, n'empêche pas que les branches puissent déléguer à certaines entreprises qui ont des spécificités particulières
les
négociations
collectives.
D'entreprise. Alors on gardera le droit à la déconnexion.
C'est tout simple, les conventions collectives adaptent le droit.
Merci Arnaud Montebourg.
Mais elles sont collectives, pas individuelles. Ce n'est pas des droits individuels ou des comptes individuels comme le CPA.
Ce
n'est pas une individualisation du droit. C'est une universalisation du droit.
De cette loi El Khomri. Dans ces dispositions les plus, on va dire, controversées.
D'abord, moi, je suis assez étonnée de voir que l'on se méfie du dialogue social dans l'entreprise. L'entreprise,
le dialogue social, c'est du rapport de force
civile.
Que le patron utilise quand il n'y a pas de délégué, quand il n'y a pas de CEO, quand il n'y a pas de syndicat.
En améliorant un certain nombre
80% des entreprises
de fonctionnement
pas de
dans l'entreprise, en associant
il y a pas de
mieux
dialogue social,
les salariés
le
à la gestion, dans les plus grandes, notamment dans les conseils d'administration,
et mieux, la hiérarchie
en les
des
intéressant
patrons,
mieux aux bénéfices, aux résultats. Lorsqu'il y a un accord d'entreprise, c'est par exemple une des modifications que je propose, de rendre cette clause d'intéressement obligatoire. Mais, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que, pour certains de mes concurrents, on a une vision de l'entreprise qui est très caricaturale, qui est encore la lutte des classes, patron contre salarié, et on ne pourrait rien améliorer.
Mais ce qui est bien avec Sylvia Pinel, au moins, c'est qu'on sait d'où elle parle.
La lutte des classes, c'est comme l'oxygène qu'on respire. On ne peut pas l'éviter, elle a lieu tous les jours. Et demandez à Gattaz, lui, c'est le spécialiste de la lutte des classes dans notre pays.
Bien souvent. On
il a dit que le code du travail était l'ennemi numéro un des patrons.
On peut avancer,
c'est
on peut reconnaître que lorsqu'il y a des difficultés dans l'entreprise, il faut que de part et d'autre, il y ait
Sylvia Pinel,
dont
je le rappelle, représente dans ce débat les radicaux de gauche.
Cette loi, elle a été portée, soutenue par certaines organisations syndicales réformistes. Il y a des avancées, on ne peut pas les nier.
Mais
le
qu'est-ce
droit
que c'est
à
les organisations réformistes? Toutes les organisations syndicales sont réformistes. Et toutes sont révolutionnaires à la fois, parce qu'elles défendent des choses élémentaires, des revendications légitimes des salariés. On ne va pas diviser. Et s'il y a eu une division, c'était sur la loi El Khomri. Mais 85% des organisations syndicales étaient contre la loi El Khomri.
Et c'est aussi
même dans la CFDT, il y avait la métallurgie. Et même dans l'UNSA, ils étaient contre, en fait.
C'est une loi excellente ou exécrable? C'est jamais aussi simple que ça, monsieur Boulot.
Bonne ou
mauvaise.
Vous
le savez bien, et justement, on crève d'avoir des débats caricaturaux.
Ah bah, cette loi, elle faisait, elle a fini avec 100 calcarqués.
Commencer avec la
deuxième occurrence du mot caricatural.
Sur cette loi travail, on en perdait même son contenu.
Rugy,
sans compter les mentions que c'était fait pour, parce que personne ne demandait cette loi.
Moi,
et que petit à petit, elle a permis les VTC, les indépendants sans statut, sans protection sociale.
J'ai toujours été pour les négociations d'entreprise.
J'ai tout le monde est pour les négociations, pour qu'elles soient encadrées. Il faut que la loi l'emporte sur les négociations. Parce que sinon, on peut négocier, y compris de ne pas avoir de garde-corps ou de ne pas avoir chaussures de sécurité. Et à ce moment-là, on se blesse ou on se tue.
C'est gagnant-gagnant. C'est ça, la négociation.
Gérard Filoche, ancien inspecteur du travail,
qui défend l'ordre public social.
Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent.
L'État de droit doit l'emporter partout, y compris dans les entreprises.
Cette loi soit à durée de 5 ans.
Vous fixez la vitesse 50 km sur la route, vous dites non, je vais négocier, ça sera 60 pour moi. Ah, mais non, là, vous aurez droit dans ce tronçon de route à 70%.
Et
voilà, vous négociez. Est-ce qu'il y a une loi, est-ce qu'il n'y a pas une loi? Et là, comme il s'agit de choses fondamentales dans la vie intime des gens, pour que la loi l'emporte. Parce qu'ils sont subordonnés sur le marché du travail.
De l'amender, de la modifier, parce qu'on s'en aura rendu compte qu'il y avait des choses qui peut-être n'avaient pas été assez maîtrisées, soit on continuera parce qu'on se rendra compte que finalement, tout ce qui avait été
fait. Et à propos de chiffres, on me signale que nous sommes actuellement 1500
l'accord national interprofessionnel.
Live en 2013, sur YouTube,
toujours par la CFDT.
Sans compter d'ailleurs ceux d'entre vous qui nous regardent sur le site d'Arrêt sur Image.
Plus personne aujourd'hui.
J'espère qu'ils ne nous trouvent pas trop critiques. Là, on est dans une position.
Voilà donc pour cette.
Écoutez, j'ai pas de participants, mais de critiques. Il y a des choses qui m'énervent et là, la loi El Khomri, ça m'énerve. Parce que c'est celle-ci qu'il faut battre en battant Valls. Voilà. Valls, c'est le porteur de cette loi. Du 49-3 par coup d'État, il a cassé un siècle de nos droits du travail. Et Valls, il faut qu'il soit battu au terme de cette primaire.
On dirait que nous sommes dans une pause de publicité qui a été assez soudaine. D'ailleurs, on l'a pas vu venir, Gérard Filoche. Alors, on va peut-être en profiter pour faire un petit point sur cette première partie du débat. Alors, sur le plan de la forme, moi, je dois dire, j'ai trouvé ça assez ennuyeux, avec peu de dialogue entre les candidats, des monologues successifs, les véritables sujets de contentieux entre notamment Manuel Valls et d'un côté, Hamon et Montebourg, éventuellement Payon de l'autre, n'ont pas été vraiment abordés au fond. On n'est pas rentré dans l'art, quoi, dans cette première partie du débat.
Je dirais surtout sur le bilan.
On n'est pas rentré dans l'art.
Sur le bilan, le premier problème. Pourquoi il y a cette primaire comme ça? C'est parce que ce bilan-là du quinquennat sortant est catastrophique. Le président lui-même a dit « Je le défends, mais je ne peux pas le défendre en me présentant ». Et Valls, lui, assume un bilan que le président n'a pas défendu. Donc là, c'est le premier gros problème derrière. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer comme les 5 ans qu'ils viennent d'avoir, ou est-ce qu'on va changer? C'est pas clair.
Non, c'est pas clair. Et effectivement, si Valls a été.
Vous avez Ben Amias qui dit c'est pas mal passé. Sylvia Pinel qui dit faut quand même continuer à aider les entreprises. Vous avez De Rugy qui dit pas grand chose entre les deux, mais surtout qui critique pas.
Et vous avez Valls qui dit c'est plus compliqué.
Oui, voilà. C'est ça. Et Valls qui dit j'assume. Bon, et Payon a sorti un petit peu sur un ou deux trucs, mais pas trop loin, parce que lui-même, il n'a jamais rien dit contre la loi El Khomri et contre la loi travail. On l'aborde, la loi El Khomri, juste à la fin, finalement. Moi, je sais pas comment dire, il faut même des mots simples. J'avais fait une idée de campagne sur 1860, 20 et 32. C'était avec des chiffres, il faut un SMIC à 1800 euros. Et on aurait dit, pourquoi? Est-ce que c'est possible? Oui, parce qu'aux États-Unis, ils augmentent les salaires. En Grande-Bretagne, le SMIC est plus élevé que le nôtre. En Allemagne, il est plus élevé que le nôtre. Et qu'il y a une série d'économistes qui ne sont pas des révolutionnaires, hein, qui disent on va arrêter avec les crédits, on va réaugmenter les salaires. Donc c'est un des premiers points. Le salaire, la partage de richesse entre le salaire et le dividende. Ouais. Pour moi, c'est le premier point d'accroche.
Alors, on pourrait profiter de cette pause de publicité pour essayer d'être un peu interactif. Moi, j'aimerais bien savoir ce que nous ont dit les internautes. Si Robin Andraka peut faire un petit résumé d'une manière ou d'une autre des réactions des internautes, notamment sur les forums de YouTube, à l'émission que nous faisons. Je vais essayer d'aller chercher, pendant cette pause de publicité, les réactions sur le forum d'Arrêt sur Image. Alors, sur le...
Donc, il y a le bilan, il y a la question des salaires.
Voilà, une synthèse brillante des réactions des internautes par Robin Andraka qui vient de me faire un instant dans l'oreillette. Finalement, c'est pas mal les oreillettes. Découvrais-je après 20 ans de télévision, c'est qu'il faut faire attention de davantage laisser parler, Gérard Filoche, les petits candidats. Il paraît qu'on laisse pas assez parler les petits candidats. Et il faut pas couvrir les questions des journalistes. Et là, je suis sur le forum du site d'Arrêt sur Image où Mathieu a frôlé la crise cardiaque en voyant le bandeau en haut du site. Il aurait fallu prévenir avant, nous dit Mathieu. C'est vrai, on a prévenu relativement tard, mais on voulait bénéficier un peu avec vous, Gérard Filoche, de l'effet de surprise. On trouvait ça sympathique. Alors on nous engueule pour évidemment on a jamais su comment appeler cette primaire. Évidemment, on peut pas dire c'est la primaire de la gauche puisque toute la gauche évidemment n'y est
moi,
pas.
Moi, c'est la primaire citoyenne ouverte à la gauche et aux écologistes. C'est son titre officiel.
D'accord, mais alors après officiel. Quel est le titre journalistique qu'on peut lui donner?
C'est ouverte à la gauche puisqu'il y a 2,5 millions de personnes qui vont venir voter.
Alors ce qu'on a le titre pour lequel on a opté, c'est primaire à gauche.
Oui.
Voilà. Alors, on voit défiler le forum sur l'écran. Donc, on va essayer de pêcher des commentaires au vol. Ça, c'est marrant. On peut descendre un peu parce que ça, c'était les commentaires qui ont été postés avant le début de l'émission. Voilà, c'est pas la primaire de la gauche, c'est la primaire du PS. Nous dit Danette.
C'est pas vrai.
Nous dit Danette Auchoc.
Il y a 30 000 personnes au PS. Il y aura 2,5 millions de personnes qui vont venir voter. Enfin, donc il y a 2,470,000 personnes qui sont pas au PS qui sont concernées.
Attendez, Gérard Filoche, c'est bien Cambadélis qui a décidé qu'il serait candidat et qu'il ne le serait pas.
Bon. Ah oui, ça c'est vrai.
Alors, on peut quand même dire primaire du PS.
Non.
Comment non?
Parce qu'elles sont
qui a organisé
parce que
cette primaire.
Ce sont pas les adhérents du PS qui vont voter. Ce qui compte, c'est les électeurs.
Alors, on parle de
Ah oui, mais c'est les électeurs qui comptent. S'il y a que le PS, il y aurait que 30 000 votants.
Alors, Cyril nous propose de parler de la primaire d'une partie de la gauche, voilà.
Oui, on peut dire ça.
On peut dire ça.
Parce qu'en plus, moi, je voulais au début une primaire de toute la gauche, l'année dernière.
Bah oui, mais alors ça, il fallait en parler à Mélenchon.
Ah bah mais j'ai pas arrêté d'en parler, j'ai refusé.
Ça n'a échappé à personne.
Et au Vert aussi, j'avais parlé pour ça.
Alors, Sémir nous explique qu'il apprécie Gérard Filoche. J'espère que vous allez y être
sensible. C'est sympa, merci.
J'espère que vous allez y être sensible. RST nous explique que ça a l'air très bien, mais qu'il n'aura pas la force de regarder. RST, un petit effort quand même. Voilà. Alors, descendons. Ce sera sans intérêt, mais bon. Ah, voilà une intervention charpentée de BRN 57. Le RSA aussi. Ben non, on n'a pas oublié le RSA. Vous n'avez pas oublié le RSA.
Mais le RSA, seulement une personne sur deux qui est éligible touche.
Oui, parce que c'est tellement compliqué.
Ah oui, on pourrait simplifier, bien sûr.
C'est tellement compliqué.
L'accès aux minima sociaux, l'augmentation des minima sociaux proportionnée au SMIC, c'est ce qui doit être fait, à mon avis. Hein.
Alors voilà, donc lui il est au RSA, BRN 57, et il nous explique qu'un revenu universel augmentant ses revenus actuels, aussi bien qu'il se dit retraité, il serait d'accord.
Mais le problème du revenu universel, c'est qui paye ? Alors si c'est pris sur les impôts que payent les salariés, à la place de ce qu'on prend sur le capital quand on travaille, c'est-à-dire les cotisations sociales sur le salaire brut, c'est deux systèmes totalement différents. Et les libéraux veulent un revenu universel qui ne soit plus appuyé sur le travail ni payé par le capital. Et donc ça, je suis tout à fait hostile.
Non, mais il y a aussi
par contre,
y a
je suis pour que des impôts permettent d'avoir des minima sociaux de façon à faire face absolument à ceux qui n'ont pas de travail. Et je suis pour que ceux qui sont au chômage touchent des vraies indemnités chômage et non pas quelque chose de dégressif ou d'insuffisant pour vivre.
Voilà, un sympathique internaute, Gérard Filoche, je vous coupe, c'est horrible, arrêtez tout de suite, c'est inregardable. On dirait des commentateurs de France-Roumanie 1984.
On avait peur que ça fasse ça.
En même temps, il n'y en a qu'un seul.
Mais on lui donne un petit truc, parce qu'il a en partie raison. On est dans cette position de commentateur. On ne peut pas faire de longues tirades, ni expliquer chacun des points en détail.
Absolument.
Donc on essaie de le faire par petites touches.
Par petites ou moyennes touches, moyenne on va touche. Dire. On dirait un pilier de bistrot en train de commenter un match de foot.
Avec de l'eau.
Avec uniquement de l'eau, commentaires qui vont dans ce sens-là. Alors, en même temps, avant l'émission, je re-regardais l'émission que vous étiez venu faire chez nous en 2010. Vous aviez débattu avec Aurélie Filippetti, si vous vous souvenez, c'était en 2010. C'est reparti.
Je me prépare à être président de la République. Je ne crois pas que ce soit le bavardage sur des secrets d'État qui donne la dimension d'un homme d'État. Il y a peut-être parfois des responsabilités à prendre pour protéger ceux que l'on aime. Et lorsqu'on a pris la responsabilité d'une nation, il faut prendre ses responsabilités dans des contextes particuliers. Mais je crois en faire étalage, c'est à la fois indécent. En faire un sujet journalistique, ça ne vaut pas mieux.
Et vous évoquez bien sûr le fait que François Hollande, dans le livre de La Veille et l'Homme, en a parlé lui-même. Benoît Hamon.
La lutte contre le terrorisme est une affaire très grave qui met en jeu la vie de nos compatriotes et notamment de nos troupes engagées dans des opérations qui sont des opérations difficiles. Et il me semble que dans ce domaine-là, la sobriété doit être de mise, la sobriété dans le commentaire sur ce qui est fait et dans la nécessité de tout mettre en œuvre pour protéger nos concitoyens.
François de Rugy.
C'est un commentaire sobre de Benoît Hamon.
Réponse claire.
Sur le terrorisme.
Oui, c'est parfois nécessaire. Maintenant, j'ai toujours été pour la transparence, mais j'ai toujours dit qu'il y avait une limite, c'est la sécurité. Et donc je regrette que c'ait été divulgué. Maintenant, je veux aussi dire sur ce sujet-là que le président de la République a eu raison, a été clairvoyant, ferme, déterminé dans la politique étrangère, notamment quand il a déclenché l'intervention au Mali il y a 4 ans, et nous pouvons lui rendre hommage sur la politique étrangère de défense et de sécurité, même si nous avons des divergences avec lui sur d'autres sujets.
Jean-Luc Benyamias, êtes-vous favorable ou opposé à ce qu'on appelle pudiquement les exécutions extrajudiciaires?
Extrêmement clair. La réponse est oui.
Arnaud Montebourg.
Les exécutions ciblées.
S'il faut prendre ce genre de responsabilité, j'y suis prêt, bien entendu, dans l'intérêt supérieur du pays. J'ai été très choqué par la violation du secret défense, car il y a des hommes qui risquent leur vie, ou des femmes aussi, pour défendre notre pays.
Merci beaucoup à tous les sept.
Sur cette question très Benoît très...
Je suis contre la peine de mort. Les exécutions ciblées, c'est une peine de mort confidentielle à discrétion du choix d'un homme. Je suis pour la diplomatie, la négociation, et je suis contre l'état d'urgence. Voilà. Et après, si on peut développer autrement, comment on peut avoir une politique alternative dans ces pays, si on a le temps...
Il a fait une loi antiterrorisme, il a fait une loi renseignement. Il a haussé le niveau et les capacités d'intervention qui sont celles de la justice et de la police. À plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la CNIL ont dit que l'état d'urgence ne pouvait pas être permanent. Et il me semble aujourd'hui qu'au regard des instruments qui sont ceux de nos services de police, de nos services de renseignement, de la justice, nous disposons de tout l'arsenal pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme sans pour autant maintenir l'état d'urgence.
Manuel Valls, sur cette affaire aussi importante, je vous ai aperçu il y a un court instant esquisser un sourire. Vous avez vous-même prolongé à plusieurs reprises l'état d'urgence. Que répondez-vous à Benoît Hamon ?
Non, je ne suis pas là pour sourire sur ces sujets-là. Et je crois que de toute façon, il faut rassembler les Français et toutes les forces politiques. Et comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, et demain comme président de la République, je veille et je veillerai à chaque fois à rassembler pas seulement la gauche. Mais toutes les forces politiques
de nationalité, c'est lui qui a poussé le plus loin le bouchon, il a divisé le plus.
Et cette guerre que nous mène le terrorisme...
Il y a une différence entre les paroles et les actes.
Cette guerre, elle va durer. C'est pour cela qu'il fallait, en effet, intervenir au Mali et au Sahel. C'est pour cela que le président américain, Barack Obama, ou le gouvernement britannique, aurait dû suivre en 2013 la position de la France et de François Hollande de frapper le régime de Bachar. Nous devons donner encore plus de moyens à nos forces de sécurité, à nos services de renseignement, à nos armées. Et je veux moi aussi leur rendre hommage, et je pense notamment à nos services spéciaux. Et enfin, l'état d'urgence, parce que nous sommes dans une situation d'urgence, devra être prolongé autant que nécessaire, parce que s'impose cette culture de la sécurité, à condition évidemment que le Parlement l'approuve à chaque fois. Et je veux le rappeler, c'est le Parlement qui aujourd'hui contrôle, salue le président de l'Assemblée nationale, qui est parmi le public, qui contrôle à chaque fois la mise en œuvre de l'état d'urgence. Mais les perquisitions administratives, le travail de renseignement qui est mené, les arrestations, le démantèlement des filières, tout cela devra se poursuivre. C'est une priorité, nous devons protéger nos compatriotes. Moi, je ne peux pas polémiquer sur ces questions-là parce que c'est trop important. Et quand on se prépare à être chef de l'État, c'est-à-dire chef des armées, quand on veut qu'en plus la défense atteigne 2% du produit intérieur brut, quand on dit la vérité aux Français, ce qui va nous obliger à faire des choix, c'est-à-dire qu'il faudra engager dans les 10 ans qui viennent 15 à 16 milliards d'euros pour financer la justice, nos forces de sécurité, l'armée, on sait à quoi on se prépare. Et moi, j'y suis prêt.
Divergence.
Alors Jean-Luc Benyamias, ça n'est pas, je
Hamon
crois, faire
Valls
de la polémique
sur
de dire
l'état
que
d'urgence.
La lutte antiterroriste n'est pas précisément au cœur de votre programme. On a relevé une mesure.
Accord sur les exécutions ciblées de tous
vous
les sept candidats, mais divergence sur l'état d'urgence.
Un corps de vigile privé. Est-ce que c'est à la hauteur de l'enjeu ou est-ce que vous considérez que nous avons un arsenal de mesures suffisant pour lutter contre le terrorisme aujourd'hui?
Alors j'apprends que je veux constituer un corps de vigile privé, je ne sais pas où vous avez lu ça.
Moi, sur votre site, Jean-Luc Benyamias, 2017. Donc si à chaque fois vous dites que ça n'existe pas...
Pardonnez-moi, monsieur Benyamias, juste pour lire ce qui est dans votre programme.
Ce que j'ai à dire...
Non, pardonnez-moi, monsieur Benyamias, nous n'avons pas inventé cette mesure. Des vigiles privés pour surveiller les centres commerciaux équipés d'armes non létales. Nous l'avons lu il y a deux heures.
Jean-Luc Benyamias, 2017.
Quand on fait des surprises, quand on fait des choses sur Internet, c'est l'heure d'étude, mais je...
Donc quelqu'un d'autre a écrit votre programme.
Le sujet est beaucoup plus important. Je voudrais me féliciter, et je le dis sans aucune démagogie, de la façon dont le président de la République, dont le Premier ministre Manuel Valls, dont Bernard Cazeneuve, dont Jean-Yves Le Drian et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble des forces de police, l'ensemble des forces de sécurité, hors vigile, même s'il y a un travail utile, ont réagi par rapport à la situation incroyable d'assassinat d'attentats que nous avons vécu.
Consensus sécuritaire la façon des sept candidats sur l'essentiel, mais à part la petite divergence sur l'état d'urgence entre
la République et la démocratie. Car le droit de manifestation a été toujours
d'enquêteurs et plus d'éducateurs.
Car les libertés publiques
pas
ont
pour
été
que nos armées soient projetées à l'extérieur,
totalement
pour qu'on se défende.
Autorisées.
Par exemple, sur le Mali, pour autant que j'ai pu entendre,
j'ai toujours eu un malaise sur le fait que la puissance coloniale soit celle qui rétablit l'ordre dans ces anciennes colonies.
Comment vous expliquez le consensus entre les sept candidats, par exemple, sur le Mali
sont venus
et sur l'opération au Mali?
Je n'ai pas discuté avec chacun d'eux. Je viens de prendre ma position personnelle et je pense que tout ce qui se passe au Moyen-Orient est largement dû à tout ce qui a été détruit depuis 20 ans par Bush père et Bush fils, et que nous vivons en catastrophe toutes les conséquences de politiques extérieures d'ingérence, et qu'il faut arrêter avec cela pour pouvoir rediscuter autrement avec les peuples. C'est pas à nous de faire les révolutions à la place des révolutionnaires, de décider de qui va diriger à la place des peuples qui doivent le faire. Et par contre, on peut influer, discuter, négocier. On a une politique économique, on a une politique diplomatique, mais pas une politique militaire, parce que ça se termine toujours mal.
À 100%. Et j'estime que quand, encore une fois, je vais encore te citer, Emmanuel, le président de la République, le Premier ministre, exprime régulièrement, ils disent aux Français la vérité, c'est-à-dire que des attentats, malheureusement, peuvent nous tomber dessus du jour au lendemain. J'écoute ce qu'ils disent. Les Françaises et les Françaises écoutent ce qu'ils disent, et je dis qu'à ce niveau-là, le chef de l'État, le Premier ministre, M. Cazeneuve, aujourd'hui, disent la réalité et préviennent les Français.
François de Rugy, est-ce qu'il faut plus de policiers sur le terrain? Est-ce qu'il faut du renseignement de terrain, comme on a pu entendre? Est-ce qu'il faut mieux harmoniser la communication entre les différents services? Qu'est-ce que vous proposez, vous?
D'abord, moi, je voudrais saluer la réaction du peuple français. Le peuple français a fait preuve d'une réaction d'une extrême sagesse, d'une extrême dignité face au choc que nous avons subi avec les attaques terroristes qui nous frappent extrêmement durement depuis 2 ans. Aucun esprit de vengeance, aucun esprit de revanche.
C'est pas une,
et ça doit être salué parce que c'est ça aussi la condition pour la sécurité. C'est que nous fassions
corps.
Évidemment, il faut aussi
Belges,
des mesures.
Les Allemands.
D'abord, première mesure que je propose, créer un haut conseil de la sécurité intérieure pour sortir ces questions-là des polémiques politiciennes. Moi, j'étais très choqué. Quand j'ai
Florian Philippot, il nous aurait fallu Gérard Filoche pour animer un peu ce débat.
Mais
il garde cette triangulation pour lui.
J'ai été très choqué aussi.
J'encourage
la campagne que
Florian Philippot à se brancher d'urgence, la commission d'urgence aussi d'arrêt sur image.
Et heureusement que nous l'avons voté. Il faudra sans doute voter des mesures supplémentaires, car il faut sans cesse s'adapter, car les terroristes, eux, ne s'arrête jamais dans l'utilisation des nouvelles techniques. Le renseignement, c'est la priorité.
Plus de moyens humains.
Le renseignement, c'est la priorité, mais c'est des moyens humains. Il y en a eu plus et il faudra sans doute des moyens budgétaires, des moyens techniques et parfois des moyens juridiques.
Monsieur Montebourg, est-ce que sur ce point-là particulier, au moins vous reconnaissez au gouvernement et à François Hollande une action éclairée, efficace et équilibrée ou pas?
Oui, nous pouvons l'en remercier. Car la France s'est tenue très solidement sur ses pieds.
Parce que là,
je crois que la seule riposte dans une circonstance comme celle que nous avons connue depuis maintenant 2 ans,
comme une biche, regardez ça, vous avez vu,
c'est l'unité nationale. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai proposé
c'est probable.
Civil, militaire, humanitaire, pour toute la jeunesse française, pour qu'elle puisse refaire corps autour du même drapeau, reprendre le chemin du brassage, quel que soit son milieu ou ses origines.
Donc vous, Président, vous feriez la même chose?
Je crois que on a remusclé l'appareil de lutte contre le terrorisme, policier et judiciaire. Il reste beaucoup de choses à faire. 14 000 personnes doivent être surveillées aujourd'hui en permanence. Nous n'avons que 4 000 agents sur le terrain. Donc nous avons baissé la garde et nous le devons malheureusement à l'héritage du président Sarkozy, qui a supprimé les renseignements de proximité, la police de proximité, qui fait que nous avons perdu la connaissance du terrain. Et le travail qui a été fait par le gouvernement a permis de remonter la pente, mais elle est longue. Je veux proposer d'ailleurs, comme mesure de remplacement à l'état d'urgence, car on ne peut être en état d'urgence que de façon éphémère, en période de crise, on ne peut pas le prolonger éternellement, il faut organiser un état de protection permanente. Je propose par exemple la naissance, la création, comme on l'a fait en matière financière, d'un parquet national antiterroriste, capable d'entrer d'égal à égal avec, dans une coopération avec les services de renseignement. Il y a des informations que les services de renseignement ne donnent pas à la justice, des informations dont dispose la justice qui ne vont pas aux antiterroristes. Il faut organiser encore mieux ces efforts. Et c'est pour moi, je crois,
le juge spécialisé antiterroriste, le fameux juge Marc Trévidic.
Il y a l'aspect lutte contre le terrorisme, puis il y a aussi la prévention. Vous vous proposez dans votre programme des centres de prévention de la radicalisation. Alors, il y en a, ça existe déjà en France. Il y en a un, notamment en Indre-et-Loire.
Du chômage, de la misère.
Le problème, c'est qu'il n'est pas plein. Comment on fait pour améliorer la prévention ?
D'abord, la protection de nos compatriotes est une priorité. Et pour cela, nous devons renforcer l'ensemble des moyens qui nous permettent de protéger les Françaises et les Français. Mais il y a deux niveaux dans la lutte contre le terrorisme. Il y a d'abord les renseignements territoriaux que nous devons améliorer. Il y a aussi, pour mieux protéger nos compatriotes, le fait que nos propres concitoyens se préoccupent aussi de ce sujet. Et c'est le sens de la réserve opérationnelle qu'il convient de mieux accompagner et de lever certains freins ou certains blocages qui font que certains ne s'impliquent pas dans cette réserve opérationnelle.
Lesquels ?
Et puis, par exemple, des problèmes de congés pour des personnes qui sont en emploi ou au contraire pour les employeurs qui libèrent leurs salariés, mais aussi pour les demandeurs d'emploi
ou les social, jeunes. Là.
Il faudrait que la réserve opérationnelle
de la sécurité, réserve opérationnelle,
la validation des acquis
Pinel,
de l'expérience. Et puis il y a la prévention et la détection des signaux de radicalisation.
Le terrorisme, évidemment.
Et il faut effectivement mieux maguer le territoire.
Macron dit aux jeunes ayant envie de devenir milliardaire, c'est le désert des idéaux. Ça pousse à faire n'importe quoi, ça, c'est une provocation.
Il
faut que les jeunes aient un espoir, qu'ils aient une solution pour vivre, une société qui permette d'intégrer, qui permette de partager les richesses. À partir de ce moment-là, vous faites reculer tout ce qui est le désert des idéaux qui vous pousse ensuite aux délires intégristes et obscurantistes.
Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que des causes sociales, économico-sociales au terrorisme, ou est-ce que, selon vous, il y a aussi des raisons religieuses ?
Bien sûr, il y a des ferments, il y a des intégristes.
Non, je vous pose la question.
Pour lutter contre les intégrismes et les obscurantistes, il faut justement, c'est la culture, c'est l'égalité, c'est une société de bien-être, c'est une société de partage, c'est une société de mieux vivre. Ça rend du coup totalement irrationnel les poussées et les délires. Sinon, ils prennent. Parce que quand vous avez des gens qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont rien à foutre, qui ont été de prison en prison, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas d'avenir, bah évidemment.
C'est vraiment dommage que vous n'y soyez pas. Enfin, on est très content que vous soyez là, mais c'est vraiment dommage que vous n'y soyez pas.
Je suis d'accord avec Florence Philippot, ce serait beaucoup plus drôle si vous y étiez. De prévenir la radicalisation, de faire en sorte que les familles...
Beaucoup plus obligatoire.
Il faut en implanter sur tout le territoire pour avoir un maillage, pour faire en sorte que les familles qui rencontrent ce type de difficultés auprès de
des enquêteurs, de police de proximité et des moyens d'enseignement qui sont complémentaires. Là, c'est une vraie défense. Et d'autre part, après, c'est l'éducation. Parce que qu'est-ce que c'est que mettre les gens dans des centres de rétention, d'éducation ou d'anti-radicalisation? Ça marche pas. Il faut que les gens se trouvent au contraire avec une possibilité de vivre qui fasse basculer leur propre conscience d'un délire ou d'une fuite ou d'une
vers ont déjà été expulsés sur décision du gouvernement. Alors, question simple, pourquoi d'abord dans votre programme faire une proposition d'une disposition qui existe déjà? Et question subsidiaire, que faire si ces imams sont français et donc inexpulsables? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là?
Dans notre pays, des enfants juifs ont été tués, ça n'était pas arrivé depuis longtemps, d'une balle dans la tête il y a maintenant presque 5 ans.
L'affaire Merah,
deux appelés du régiment dont l'un était d'origine musulmane. Et puis nous avons connu les attentats de Charlie Hebdo qui s'attaquait à la liberté d'expression, à la liberté de conscience. Nous avons connu, et peut-être il faut le remarquer, les attentats du Bataclan où là c'était sans distinction d'origine, d'âge, que ces Français, ces Françaises, d'autres étrangers ont été tués. Et puis il y a eu Nice, et puis il y a eu un prêtre. Donc nous sommes dans une situation tous où nous sommes endeuillés.
Il faut poursuivre l'effort, et je Pellion, le propose, pour les forces de sécurité, maintenant. Police et gendarmerie.
Sur les gens de Nice, il y en avait un tiers qui étaient musulmans.
Et c'est déjà
et beaucoup d'étrangers.
Et beaucoup d'étrangers. Au Bataclan également.
C'est
pour ça que je dis que c'est une attaque contre l'humanité, pas contre les Français.
Et à la gendarmerie.
C'est pour ça que la réponse n'est pas franchouillarde, si j'ose dire. Elle n'est pas de se sentir en forteresse assiégée. Elle est au contraire de partager les valeurs de l'humanité et de faire que la France attire l'humanité.
De ce point de vue, des vigiles de Benamia, Guy Birenbaum a trouvé effectivement la revendication des vigiles sur le site, de Jean-Luc Benamia, même s'ils ne sont pas expressément dits privés. Constituer un corps de vigiles de sécurité, voilà, proposition de Benamia, on est dans le fact-checking, constituer un corps de vigiles de sécurité agréé par le ministère de l'Intérieur qui pourront avoir des armes non létales.
De leur trajectoire de finances publiques.
Qu'est-ce qu'on a besoin, président? Discuter de ça.
Que entre il nous, faut comprendre que beaucoup de ces terroristes.
Le président de la République, c'est pour les grandes orientations. Après, il y a le Parlement. Et le Parlement discute s'il y a des armes létales et pas létales, dans quelles circonstances, veux dire. C'est typiquement l'idée du pouvoir personnel qui doit trancher sur tout, même la virgule à la porte d'un supermarché.
Même la nature des
armes. Tu comptes ce pouvoir personnel. Alors, il faut donner des grandes lignes. On répartit les richesses. On frappe sur l'oligarchie, on fait qu'on réduit la durée du travail. C'est les grandes lignes.
La question pour moi est beaucoup plus profonde.
Il y a aussi les grandes lignes en matière de sécurité.
Vous permettez juste une petite interruption parce que vous devez considérer que c'est pas important, mais quand même, pour les imams, quand ils sont français et qu'ils prêchent le djihad sur notre territoire, est-ce que vous savez comment procéder avec eux dans la mesure où ceux-là ne sont pas expulsables?
Dans la mesure où il y a une infraction, où il y a un appel à la violence, nous avons des condamnations possibles. Lorsqu'ils sont d'origine étrangère, et nous demandons aussi, et là il n'y a pas de polémique, à ce que les questions de financement soient regardées très précisément, au plan européen d'ailleurs comme au plan français, et pour les imams et un certain nombre de mosquées. S'ils sont français, ils tombent sous le coup de la loi française, c'est le cas d'un certain nombre d'entre eux. S'ils sont étrangers, nous devons les expulser. Oui. Mais je voudrais vous dire une chose. L'islamisme radical est effectivement, pour nous tous, laïcs, notre ennemi, parce qu'il attaque les valeurs de la République. Et nous devons donc tous le combattre avec la plus grande résolution.
Manuel Valls, Benoît Hamon a dit tout à l'heure, il a salué l'action du gouvernement en matière de terrorisme, à l'exception d'une mesure, qui est la déchéance de nationalité. François Hollande, le 2 décembre dernier, a dit qu'il la regrettait. Est-ce que vous aussi, vous la regrettez?
D'abord, je veux dire que nous sommes en guerre. Si nous faisons face à la propagation des idées du salafisme, des frères musulmans, de l'islam politique, à l'extérieur, pas seulement dans notre pays, en Europe, Sylvia Pinel vient de le rappeler, au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique. C'est aujourd'hui notre ennemi. Et le terrorisme, cet islamisme radical, nous mène cette guerre. Donc, le rôle du chef de l'État, c'est évidemment de donner la perspective sur les grandes questions que nous avons abordées, la politique économique et pour l'emploi. C'est d'incarner la nation, la culture, sa langue, sa diplomatie et ses armées. Mais le rôle du chef de l'État, aujourd'hui, c'est d'armer la France. C'est de continuer à lui donner les moyens.
Et c'est pour ça que précise qui fait la déchéance de nationalité. Alors est-ce que Manuel Valls
a poussé jusqu'au bout dans
son plan de supprimer
500 000 fonctionnaires et ça concernera forcément les forces de l'ordre. Nous devons poursuivre ce travail.
Il a dit spécifiquement l'inverse. Il ne supprimait pas.
Je crois que ce n'est pas son porte-parole, premièrement. Et deuxièmement, quand on propose de 500 000...
C'est de notoriété publique, c'est écrit, il l'a déclaré.
Quand on propose de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires et que soi-même, on a supprimé, je parle de François Fillon, des postes de policiers et de gendarmes, on n'est pas crédible sur ces questions-là. Donc je propose chaque année 1000 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes. Mais nous devons aussi soutenir la justice, créer 1000 postes de magistrats en 5 ans, 1500 de greffiers. Il faut aussi créer 10 000 places de prison supplémentaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a la surpopulation carcérale et lutter, nous sommes tous d'accord là-dessus, contre l'islamisme radical. Sur la déchéance de la nationalité, bien sûr que ça a divisé la gauche. Mais rappelez-vous, le président de la République, devant le Congrès, cherchait dans un moment dramatique, après les attentats de Paris et de la Seine-Saint-Denis, de rassembler la nation sur ces questions. Ça a été un débat difficile, douloureux. Moi, je suis né à Barcelone. Je suis naturalisé. Je sais ce que m'a apporté la France. Et je peux comprendre ce que cela a pu représenter, peut-être pour certains. Mais enfin, cette vision, cette loi, cette idée, elle visait qui? Elle ne visait pas les enfants de la République en fonction des origines. Elle visait les terroristes d'abord, ceux qui s'en prenaient à leurs propres compatriotes, qui les tuaient parce qu'ils étaient français, parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient démocrates, parce qu'ils étaient journalistes. Moi, je reste marqué à tout jamais par la manifestation du 11 janvier 2015. Je reste marqué par mon propre discours et par la réception à l'Assemblée nationale le 13 janvier. Et ici, je suis Charlie et je serai toujours Charlie. Et c'est ça qui doit d'abord nous rassembler. J'ai regretté, bien sûr, ces divisions de la gauche. Nous n'aurions pas dû nous diviser sur une question aussi importante. Et je rappelle enfin que la déchéance de nationalité, elle existe toujours sur le plan administratif, et qu'elle concerne des binationaux, et qu'avec Bernard Cazeneuve, nous avons expulsé et déchu de la nationalité 6 personnes au cours de ces derniers mois. Voilà, je veux ramener uniquement de la raison et de la passion, parce que j'aime trop mon pays, et parce que je sais quelle sera ma tâche si je suis président de la République.
Oui, il la défend toujours, sans l'avoir dit, sans l'avoir dit explicitement.
De nationalité vous a choqué, vous l'avez dit, vous l'avez écrit. Est-ce que vous en tenez Manuel Valls responsable, au moins en partie?
Je voudrais dire brièvement, moi aussi, comme nous tous, je suis Charlie. Et beaucoup de ceux qui auraient été directement concernés par la déchéance de nationalité étaient Charlie. Et ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est que soit puisse être inscrit le principe d'une inégalité dans la Constitution entre citoyens. Je ne parle pas des terroristes. Je parle des citoyens binationaux qui se sentaient concernés par la remise en cause de cette égalité fondamentale entre citoyens, les binationaux. Et il faut se rappeler de cela. C'est la raison pour laquelle cette mesure a heurté des millions de nos compatriotes, pas seulement les binationaux, ceux qui étaient attachés, au-delà de ce critère-là, au principe de l'égalité des citoyens devant la loi dans la Constitution.
Et des binationaux qu'on aurait pu croire ne pas être concernés par la mesure. Je me souviens que sur ce plateau, on a reçu à l'époque, à l'automne, l'écrivain Nina Yargakov, qui est une jeune écrivain franco-hongroise, qui a donc la double nationalité française et hongroise, et qui nous avait raconté s'être ressenti profondément heurté personnellement, bien qu'il soit concerné en rien du tout, si vous voulez, mais s'être senti concerné personnellement, heurté par cette mesure de binationalité.
Moi, j'ai une réponse, j'insiste bien. Les attentats, tout ça, ça n'a rien à voir avec la nationalité. Ça a à voir avec l'humanité. Et donc, en vérité, c'est ça qui est en jeu.
Soit des moyens qui renforcent notre capacité à disposer d'une force de dissuasion nucléaire, d'une capacité de projection de nos forces sur des théâtres extérieurs, et je fixe un objectif, sous la forme d'une loi de programmation budgétaire sécurité et défense, qui se préoccupera de la sécurité intérieure comme de la défense, de porter pour les missions de gendarmerie, de police, de renseignement, de sécurité intérieure et de défense à 3% du PIB à la fin du quinquennat, ce qui doit être les moyens consacrés à la nation à sa sécurité. Je pense que c'est un objectif important. Je rappelle que les Britanniques viennent de prendre en 2015 une décision semblable qui fixe à des objectifs ambitieux en matière de sécurité intérieure et de défense, les moyens consacrés par le budget de la nation à l'effort de défense.
François de Rugy, deux questions. D'abord, vous pouvez peut-être répondre à Benoît Hamon, qui estime que parce qu'il fallait tenir compte de la sensibilité des binationaux, ne pas proposer la déchéance de nationalité. Ensuite, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, jamais la France n'a été aussi engagée militairement à l'extérieur, sur des terrains de guerre. Vous poursuivriez cette politique d'intervention à l'extérieur ?
Deux choses. D'abord, sur le terrain intérieur. Moi, je veux dire que au-delà des mesures de sécurité qui sont nécessaires et qu'il faudra continuer à mener, il y a un combat pour les valeurs à mener. Ce combat pour les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, on a trop cru que c'était une évidence, que c'était devenu partagé par tout le monde. Ces valeurs sont attaquées. Elles sont attaquées par l'extérieur, elles sont attaquées à l'intérieur. Les attentats contre Charlie Hebdo, c'était une attaque directe contre nos valeurs. Il faut donc les défendre judiciairement, il faut les défendre d'un point de vue éducatif.
De grands numéros d'éloquence un peu creux sur cette question qu'il faut dire si presque. J'ai l'impression qu'il commence à fatiguer. Tout le monde commence à fatiguer. Moi, je commence à fatiguer un peu. C'est long. Hein.
Vrai, mais...
Non, mais vous devez avoir l'habitude des réunions interminables.
Oui, moi, je voudrais chercher, quand je les entends, à dire que la majorité du peuple français, elle est pacifique. Elle veut de la paix, elle veut du bien-être, de l'échange. Elle ne veut pas de la guerre, elle ne veut pas de la violence. Il ne faut pas prendre des tons catégoriques, nous sommes en guerre, nous sommes attaqués, etc. Il faut prendre des mesures réelles, pratiques. Je parlais des enquêteurs, je parlais, etc. Et ce ton dramatisant est excessif, malgré le drame la tragédie qui est derrière. Non, mais, il y a deux façons de traiter ça.
Mais vous savez pourquoi ils le prennent. Ils le prennent parce qu'ils sont candidats à la présidence de la République. Donc sur ces questions-là, qu'on appelle des questions régaliennes, il faut faire président. Voilà, il faut faire président. Il faut faire chef suprême des armées.
Et moi, je ne suis pas pour plus de budget pour les armées, plus de ça. Je voudrais discuter au niveau international, parce que il faut plutôt se battre pour le désarmement mondial et le désarmement multinational. Et après, ils disent tout ça, mais il n'y en a pas un qui dit, le Valls tout à l'heure, la lutte contre... Mais il va en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, ils vendent les armes les plus perfectionnées qu'on peut avoir. Et l'Arabie Saoudite, avec ses armes, va bombarder le Yémen à côté, et dans des conditions où ils vont nourrir d'autres intégristes. Et des jeunes du Yémen qu'on ne connaît pas aujourd'hui viendront un jour nous poser des bombes parce qu'on a donné des armes à l'Arabie Saoudite pour qu'elle tue leurs parents. Et donc, en vérité, on ne peut pas avoir ce type de langage contradictoire. On
veut
avoir une politique internationale qui est pacifique, internationaliste. Et on sait bien toute la part, il dit, c'est pour les valeurs. Enfin, au Moyen-Orient, pour l'essentiel, c'est le pétrole et les armes. C'est pas les valeurs.
Vous faites bien d'en parler parce qu'effectivement, par exemple, cette question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, qui est une question extrêmement importante de la diplomatie française, c'est une question qui est rituellement absente de tous ces débats. Vous pouvez être sûr qu'à aucun moment ne va être, peut-être dans les prochains, je ne veux pas m'avancer, mais ne va être questionnée la question de la politique de vente d'armes à l'Arabie Saoudite.
Je conseille un livre, je suis en désaccord avec lui sur d'autres questions, de Paul Killes sur la défense nationale et sur la façon de traiter et de désarmer toute la concurrence mondiale, internationale, sur le nucléaire, qui me semble de bien meilleure facture que ce que nous entendons là.
Voilà. Car il y a eu attaque gazeuse, de gaz.
En août 2013.
Quand ils disent cela et qu'il n'est pas suivi par aucun pays européen, et qu'il n'est malheureusement pas suivi par M. Obama, ça pose problème.
Donc, je tout le monde est d'accord.
La France toute seule.
Tout le monde est d'accord. Si tout le monde avait suivi Hollande en Syrie, on n'en serait pas là. Consensus.
Et c'est pas faute
entre les sept, une fois de plus.
C'est nécessaire dans le budget de l'armée, qui est très important. C'est faute d'avoir une défense avec coopération européenne. C'est faute d'avoir un certain nombre de pays européens qui participeraient à l'aide à nos armées. Nos armées sont parfois obligées d'acheter des équipements, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Syrie, que ce soit surtout quand nous sommes sur les territoires africains. Je dis que par rapport à ça, ça n'est pas normal.
Il y a trois semaines, Arnaud Montebourg, Anis Amri, l'auteur de l'attentat de Berlin qui avait fait 12 morts, a pu ensuite, sans difficulté, traverser l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, puis l'Italie. Vous proposez, dans votre programme, d'instaurer un contrôle aux frontières de la France. Mais pour arrêter un terroriste comme Anis Amri, il faut des contrôles systématiques à tous les postes frontières, 24 heures sur 24. Bon, comment allez-vous faire? Comment allez-vous financer ça?
Quand on a créé Schengen en 1990, le contrat était le suivant. Renforcer les frontières extérieures et organiser la liberté à l'intérieur. Aujourd'hui, la menace est à l'intérieur. Donc nous avons besoin de renégocier les accords de Schengen, non pas pour finalement se passer de l'Europe, mais tout au contraire, renforcer encore les contrôles à l'extérieur et permettre qu'à tout moment, les points de passage entre les États membres, lorsqu'il y a des menaces qui sont souvent imprévisibles et aléatoires, fassent l'objet finalement d'un renforcement. Je suis favorable à ce que nous renforcions la police aux frontières. Il y a 400 points de passage entre la Belgique et
sur Schengen.
Et
si vous aviez été en train de débattre avec les candidats, vous avez une position très arrêtée.
Aujourd'hui menacé. C'est pas en renforçant les frontières et les contrôles aux frontières, mais c'est dans les services de renseignement. Parce que là, il y a des coopérations qui sont beaucoup plus fondamentales entre les différents États qui composent l'Europe. Et ce que j'en sais, c'est que les services de renseignement ne se renseignent pas suffisamment les uns les autres. Et que là, c'est là sûrement qu'il y a quelque chose à faire.
Alors comment vous faites?
Je fais remarquer que les frontières.
Je vais jouer à Gilles Boulot là. Et comment vous faites, Gérard Filoche, pour que les services de renseignement se parlent davantage?
Là, on sait bien qu'on fait des sommets avec les ministres concernés et qu'on négocie. De toute façon, si on n'y arrive pas, on n'a pas d'autres moyens. On ne peut pas forcer les autres États à participer. Mais on a une politique qui vise à ce qu'ils cherchent. Quant à la question des frontières, le cas du terroriste en question est typique. Il a passé trois pays, mais il a été arrêté. Donc ce n'est pas le problème qu'il ait passé trois frontières. À la fin, il a été arrêté, en vérité.
Dans un contrôle routier.
Oui, bon.
Qui n'avait rien à voir avec... Voilà, non mais...
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il peut... Voilà, c'est rien. On cherchait à l'arrêter, il a été arrêté. Il y a eu un contrôle qui l'a arrêté.
Bon, pendant 18 mois. Car il y a les nécessités de la maintenance technique.
C'est la fin de ce chapitre sur la sécurité. Ah. Avant d'ouvrir notre troisième partie consacrée à votre vision de la société, à votre conception de la République, une question politique que nous allons poser à chacun d'entre vous et à laquelle nous vous demandons de répondre par oui ou par non.
Il y aura au moins 3 candidats à gauche dans cette présidentielle. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et le vainqueur de cette primaire, l'un de vous 7, pour éviter l'élimination de la gauche dès le premier tour, doit-il se désister par un mot? Seriez-vous prêt, le cas échéant, à vous effacer derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon?
Dans une
vie idéale, il serait formidable que vous nous répondiez par oui ou par non.
Et pourquoi il classe Macron à gauche, l'autre dit qu'il n'y est pas?
Imaginez, monsieur,
la vie est mal faite.
Imaginez, monsieur, qu'il y ait 3 millions de suffrages de votants à cette primaire, ce que je crois. Nous aurons un mandat de rassembler l'ensemble des gauches. Il faudra quand même tenir compte du fait que nous aurons ce mandat. Donc,
je vois pas très bien ce que cherche Boulou.
Je crois
Boulou,
que nous aurons d'abord à rassembler l'ensemble des forces
de,
sur le
de leur faire dire qu'ils vont s'effacer derrière Macron.
Il essaie de leur faire dire que le Parti socialiste n'existe plus entre Mélenchon et Macron, comme d'habitude.
Monsieur,
c'est tout ce qui se dit
Emmanuel
tous les jours
Macron,
ce matin.
J'ai beaucoup de sympathie
dans les radios.
Il m'a succédé à Bercy. Mais je n'ai toujours pas compris ce qu'il était. Pour moi, il est un peu Monsieur X. Est-il de droite? Est-il de gauche? Que veut-il? Il fait des compliments à Valéry Giscard d'Estaing, parfois à Philippe de Villiers, parfois
Valls,
il va dans la Nièvre pour saluer François Mitterrand. Bref, j'ai besoin de comprendre, mais nous avons encore le temps.
Bon, c'était vraiment pas par oui ou par non. Jean-Luc Benhamias.
Ouais, c'est clair, oui. La question est claire,
oui,
mais je n'y réponds pas
aujourd'hui. Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bon, c'est encore plus alarmant qu'Arnaud Montebourg.
J'ai pas entendu la réponse.
On ne peut pas répondre à cette question par oui ou par non. Ah, ça n'aurait aucun sens. On voit bien que la situation politique, et la politique, c'est une dynamique. Mais moi, je veux que l'on soit clair, que l'on dise la vérité à celles et ceux qui vont participer à la primaire, qui vont voter.
C'est une baudruche.
Celui ou celle qui sera désigné par cette primaire, moi, je ne veux pas qu'au lendemain de la primaire, ils disent que son premier rendez-vous est avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que je vais vous dire, ça me fait penser à une petite chanson dont le refrain, il y a quelques années, était « C'est l'agneau qui invite le loup à dîner ». Parce que c'est clair et net.
Voilà, lui,
Jean-Luc
c'est un diviseur de la gauche. Il est là pour appuyer à droite et empêcher qu'il y ait l'unité de la gauche et qu'on gagne la présidentielle.
Sensibilité dans le Parti socialiste. Ils savent très bien de quel bois est fait Jean-Luc Mélenchon. Il ne va pas se retirer. Donc la seule perspective que nous devons avoir, c'est de nous adresser aux Français directement avec un projet clair, mobilisateur, et en leur disant l'enjeu.
Et on perd. On a
3
candidats de gauche et on n'est pas au deuxième
tour.
Benoît
Hamon, il me reste encore un faible espoir.
Entre Fillon et Le Pen, c'est ça?
La fatalité de la division, c'est la fatalité de la défaite. Et moi, je ne me résous pas à ce que demain, nous ne cherchions pas à discuter avec nos partenaires pour envisager des candidatures rassemblées au premier tour de l'élection présidentielle. Donc oui à la discussion. Et cette discussion aura d'autant plus de force que les électeurs à la primaire nous donneront cette force. Moi, je m'engage, si je suis choisi par les électeurs de gauche le 29 janvier, à faire en sorte que ce dialogue existe. S'il n'est pas conclusif, nous en prendrons acte, mais ce dialogue doit exister.
Vincent Peillon.
Chaque fois que la gauche a gagné, c'est quand elle a su se rassembler. 36, 81, 97. Peut-être la plus grande erreur de ce quinquennat, c'est d'avoir été sectaire, donc brutal. Nous avions une nouveauté.
Bien dit, là.
C'était François Bayrou qui avait décidé de voter pour la gauche. Nouveauté absolue dans l'histoire politique de la Ve République.
Pas tout à fait.
Nous n'avons pas accepté cette main. Nous avons gouverné pour la première fois. Pour la première fois. Sans les communistes depuis le début et le Front de Gauche. Les uns et les autres avaient voté pour le président. Une partie entière du Parti Socialiste s'est retrouvée marginalisée et s'est radicalisée, mais c'est normal au fur et à mesure. Et puis les Verts sont partis au bout de 2 ans.
Eh oui.
Très difficile de gouverner.
Description du gouvernement
dans ces conditions.
Archi-minoritaire.
Alors moi je ne suis pas la gauche sectaire,
hein,
ni la gauche.
Là, oui.
Je suis
la
gauche qui veut gagner, qui est fière de ses traditions. Et on ne peut gagner qu'à partir du cœur de la gauche, pas l'extrême gauche. Pas le centre,
d'accord.
C'est le cœur de la gauche, c'est-à-dire
absolument.
Le Parti Socialiste. Je vois les commentateurs depuis quelque temps qui se disent et qui espéraient, une fois de plus, le Parti Socialiste va disparaître. Non, il existe depuis plus d'un siècle et il a amené la plupart des grandes réformes dans ce pays. C'est donc à partir de notre rassemblement, à nous ici, que nous organiserons sans sectarisme le dialogue et le rassemblement avec Jean-Luc Mélenchon d'une part, et Macron. Je vous rappelle quand même la plaisanterie.
Ah, pas Macron. Non, c'est pas pareil.
Mélenchon a été 20 ans Parti Socialiste. Il a été un bon ministre de Lionel Jospin. On ne peut pas lui parler? Alors. Et puis, de l'autre côté, Macron, il a été ministre de Manuel Valls.
Ah, mais ça, c'était une erreur de casting.
Bon. Donc, on doit pouvoir aussi lui parler. Sortons de ces petites querelles.
Il ne veut pas. Il est parti. Il veut faire son Bérou, là.
Manuel Valls, si vous êtes troisième, vous êtes prêt à vous effacer? Derrière Jean-Luc Mélenchon.
Le troisième, qu'est-ce que ça veut dire, troisième? Qui va décider qui est premier, deuxième ou troisième?
Le concours épique. Ça n'est pas jeu des petits chevaux. si nous participons à une primaire,
ils veulent que ce soit les sondages qui décident lequel
des
trois
sa légitimité, par le nombre d'électeurs, je l'espère, grâce à ce débat, par le nombre d'électeurs qui viendront participer à travers nos débats, qui doivent clarifier évidemment l'esprit des Français, et par un choix clair, puisqu'il s'agit de désigner un candidat à la présidence de la République. François Mitterrand, en 81, si on va chercher des références, n'a jamais dit dans quelles conditions il gouvernerait. Parce que la première condition d'un candidat à la présidence de la République, c'est de rassembler, et c'est la majorité présidentielle qui demain fera évidemment la majorité parlementaire. Donc chacun devra prendre ses responsabilités et tenir compte, je l'espère, c'est une condition évidemment indispensable de la réussite de cette primaire et de celui ou de celle qui sera désignée. C'est comme ça qu'on regarde les institutions de la Ve République, mais c'est surtout comme cela qu'on répond à la question.
Pour ne pas discuter, sinon il aurait cité les noms. Il aurait cité les noms.
Primaire, vous, le cas échéant, devra-t-il s'effacer s'il arrive troisième derrière, par hypothèse, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron dans l'ordre ou dans le désordre?
Mais l'enjeu, c'est d'abord de réussir cette primaire de la gauche de gouvernement, qui ne se résume pas d'ailleurs à celle du Parti socialiste, parce que, Vincent, les réformes majeures de la gauche, elles ont souvent été portées par cette gauche de gouvernement, et pas uniquement par le seul Parti socialiste. Ce qui est important, c'est donc de créer une dynamique. Et
ils ont viré la moitié, les Verts, tout ça, du gouvernement. Alors, ils ne sont plus dans la gauche du gouvernement.
Ensuite, bien sûr, le rassemblement, c'est une question habituelle. Mais pour se rassembler, il faut partager un socle commun, une vision claire de notre société.
Le SMIC, la retraite, le partage des richesses.
Il faut construire derrière un pacte de majorité, un pacte de gouvernement. Et si on doit se rassembler pour se rassembler, mais qu'ensuite on ait des difficultés pour gouverner, cela peut porter préjudice à nos institutions et à l'idée de la République et à l'idée de la France.
Il n'y a pas de la gauche au deuxième tour.
Discuter, oui, mais ne pas transiger
sur la ligne.
Si tu
as plusieurs candidats, tu n'as pas la gauche au deuxième tour, c'est fini le 23 avril à 20h.
De cette primaire.
Donc il faut que celui qui gagne, ça soit quelqu'un de la gauche socialiste et qu'il ait discuté avec Mélenchon et avec Jadot et qu'il fasse un programme commun de gouvernement et qu'à la suite du programme commun de gouvernement, il y ait des candidats aux législatives sur la base de celui-ci. Parce que pour l'instant, les législatives, elles seront perdues aussi.
Pour des questions liées à la crise républicaine et aux institutions, si c'est possible de vous limiter à ce temps que vous aviez vous-même d'ailleurs arrêté d'une minute trente quand
on pour une sixième question, république.
S'il vous plaît. Manuel Valls dénonçait il y a 2 ans, s'en souvient, dans un discours marquant, un apartheid territorial, social et ethnique en France. Vous êtes un élu de Trappes, dans les Yvelines. Est-ce que vous partagez ce constat?
Je pense qu'il y a des mots qui chantent plus qu'ils ne parlent. C'est Paul Valéry, je crois, qui disait cela. Et je crois que la République, aux yeux de beaucoup de nos compatriotes, parfois chante plus qu'elle ne parle. Quand on fait plus l'expérience de l'inégalité que de l'égalité, plus l'expérience de la contrainte que de la liberté, plus l'expérience, finalement, de la discrimination que de la fraternité. Et nous devons donc nous concentrer sur la manière dont, aujourd'hui, la République s'incarne concrètement pour les plus fragiles, les plus modestes, ceux qui en ont le plus besoin. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, la priorité des priorités, si nous voulons reconstituer une République qui soit pleine d'espérance et d'audace, c'est l'école. Et l'école, c'est penser demain de quelle manière remettre en cause les ghettos sociaux et les ghettos scolaires et faire en sorte qu'on torde le cou à cette hélas fatalité, ça n'en est pas une si on lutte contre, mais qui veut qu'aujourd'hui l'école française serait une de celles où le destin scolaire d'un enfant est le plus lié à son origine sociale.
Vous avez une mesure pour lutter contre ce mal français, en effet.
Je pense aujourd'hui que la question, la clé, c'est la mixité sociale de l'éducation.
Plus de profs et des petites classes. Et puis quand il y a un décrocheur, il faut un prof pour 5 élèves qui les rattrape.
La carte scolaire, les conditions dans lesquelles les enfants pourront apprendre ensemble. Et ce sera une question centrale, parce que sans mixité scolaire, nous n'arriverons pas à la mixité sociale. Sans mixité sociale, c'est très difficile de faire vivre la République.
Manuel Valls, on l'a dit, c'est vous qui aviez dressé ce constat de ségrégation. Qu'est-ce que vous pourriez faire demain en tant que président que vous n'avez pas fait hier comme Premier ministre?
C'est un travail de très longue haleine. Comme Benoît, moi je suis un élu.
Il n'a rien fait pendant 3 ans, il dit qu'il ne va rien faire pendant 5 ans.
Je l'avais fait, bien sûr, comme maire d'Evry. Les réponses, elles sont multiples. En 2 minutes, c'est impossible. Une minute trente, mais sur le temps de parole qui reste pour ce débat. C'est bien sûr la nation éducative que je
propose.
Plus d'argent
que pour l'armée.
Et là, nous n'allons pas nous opposer un seul instant. La priorité à la formation, à l'école, à la mixité sociale. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place. Si je voulais taquiner, mais je ne le ferai pas, Benoît, je dirais, j'aurais aimé qu'il
poursuivre le travail qu'il avait commencé à engager et que Vincent avait engagé depuis 2012 et qu'incarne aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem. Mais bon, je respecte évidemment ses décisions. Mais nous pouvons tous nous mettre d'accord sur l'école, sur la mixité sociale. C'est le problème numéro un. En effet, la reproduction des inégalités, la reproduction sociale par notre propre système scolaire, aujourd'hui,
vous n'auriez pas dû partir. Vous n'auriez pas dû quitter le navire.
C'est lui qui les a mis dehors,
concernant la mixité. Ils n'ont rien répondu. Ils n'ont rien répondu.
Très belle mesure. Non, c'est quand même lui qui les a mis dehors. C'est lui qui est revenu. Hollande, dans son avion, avait dit c'est pas grave. Il a dit c'est où, moi, en revenant. Et Hollande a cédé, comme toujours.
Ceux qui sont en difficulté. La lutte contre le décrochage scolaire. Et vous me permettrez. Il faut aller tellement vite pour parler de ces sujets qui sont essentiels. Il y a un sujet qui me tient à cœur, qui peut être incarné par le président de la République. C'est la lutte contre l'illettrisme. Il y a aujourd'hui, en métropole
et dans nos outre-mer,
dont nous n'avons pas parlé ce soir, 6 millions en métropole et en outre-mer, 6 millions d'illettrés. Ça doit être une grande cause nationale parce que, à l'heure du numérique,
plus de profs, des petites classes.
Oui, vous l'avez déjà dit, Gérard. Six millions d'illettrés, vous aviez déjà entendu ce chiffre de 6 millions d'illettrés.
Vous n'êtes pas très prolixe dans votre programme sur la lutte contre les ghettos. 6 millions d'illettrés,
je ne sais pas d'où vient le...
Je ne sais pas, vous avez vu mon programme, j'ai écrit un livre, si vous voulez. Tout n'est pas sur Internet. Sur Internet, j'ai pris un exemple, si vous voulez, qui est assez simple. C'est l'exemple d'un monsieur, un autre candidat dans la primaire de droite, qui avait fait 1000 pages de programme. Ça ne vient pas tellement réussi. Et donc, j'ai écrit sur mon site, que vous n'arrêtez pas de citer, des éléments de programme, avec quelques lignes. Je n'ai pas rappelé que j'étais pour l'égalité homme-femme. Je n'ai pas rappelé un certain nombre de sujets sur lesquels, évidemment, pour moi, il y a une telle évidence dans mon parcours politique, je n'ai pas tout rappelé.
Mais ce qui est évident sur l'égalité homme-femme, c'est d'abord des salaires. Parce que ces temps derniers, il y a eu une discussion là, avec un journaliste qui a dit que c'était anti-économique que de payer les femmes comme les hommes. Or, il faut l'obliger.
Christophe Barbier de L'Express.
Ce qu'il faudrait dire à ce sujet-là, c'est par la contrainte, c'est par la contrainte qu'on y arrivera. C'est-à-dire qu'il faut forcer les entreprises à le faire. Ça ne viendra jamais spontanément. Sinon, dans 250 ans, il y aura toujours une inégalité salaire homme-femme. Et pour contraindre, il faut le faire par la loi avec les inspecteurs du travail et avec des juges sous peine de référé et d'astreinte.
Après, je suis allé vivre à Marseille depuis 15 ans. J'ai été conseiller communautaire, conseiller régional. J'ai une certaine aptitude à connaître les difficultés. Et quand je connais les difficultés, je connais aussi les difficultés de l'État par rapport à cela. Car depuis combien de temps, sur la politique de la ville, on a pris du retard. Rappelez-vous, à l'époque du gouvernement, ça devait être... je me rappelle plus le Premier ministre, c'était Mitterrand qui était président de la République. On a fait une grande initiative avec M. Castro, c'était Banlieue 89, qui définissait extrêmement précisément...
Oui, merci de le préciser.
Je ne parlais pas de Ségolène Royal. Très mauvais, je sais.
Je crois.
Bien, je reviens. Banlieue 89, qui définissait les travaux qui auraient dû être faits, c'était Michel Rocard qui était Premier ministre, je me rappelle maintenant, qui devaient être faits pour rattraper les retards structurels. Et les moyens de la France, déjà à l'époque, ne semblait pas être assez suffisant. Je crois que différents gouvernements, notamment celui qui vient de passer pendant 4 ans maintenant, 4 ans et demi, ont fait quelques efforts. Je pense que les moyens sont à mettre réellement là-dessus. Je dis, par rapport à l'école, puisqu'il s'agit aussi de cela, que la valorisation du métier d'enseignant doit être total, que nous avons les revenus
consensus
chez les instituteurs,
institutrices,
parlons en termes de salaire, parlons en termes de nombre dans la classe,
au collège,
parlons en termes de formation des élèves, des maîtres.
Je dis que par rapport au collège, qui est pour moi le lieu où il y a le plus de difficultés, le plus d'échecs scolaires, j'ai du retard, je peux y aller encore même un petit peu.
Alors vous avez de l'avance. Après c'est fini.
Maintenant vous avez de l'avance, à force d'avoir du
retard. Ça va très bien.
Allez-y, monsieur.
Je dis que par rapport au collège, il est nécessaire que dans beaucoup d'endroits, Emmanuel Valls l'a rappelé tout à l'heure, il y ait plus d'enseignants que de classes. Parce que dans une salle, dans une classe, l'enseignant peut s'occuper de 80%, ceux qui suivent, ceux pour qui ça va très bien. Puis il y en a 20% qui sont décrochés. Et ces décrocheurs, on doit les suivre beaucoup plus, donc avec un élément en plus, un éducateur en plus ou un enseignant en plus.
Ça, c'est la moindre des choses.
Alors Sylvia Pinel, je me tourne vers vous. On va parler de la laïcité, évidemment. Vous y êtes très attachée.
Avant cela, comme j'ai du retard, je voudrais...
Écoutez, faites comme vous l'entendez, finalement. Hein. Et on parlera de laïcité, parce que je sais quand même que c'est un sujet au cœur de...
Bien sûr, mais l'école de la République, année 1 aussi. Et je crois, en effet, que la priorité doit être mise sur l'éducation. C'est ce qui renforcera la mixité sociale, le vivre ensemble... et la citoyenneté plus que le service militaire. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il faut coupler cette priorité sur l'école à la politique du logement, à la politique de l'urbanisme, à la politique de la ville. Beaucoup de choses ont été faites, mais pour que cette véritable mixité sociale soit là, bien présente, il faut à la fois produire des logements adaptés, des logements de qualité, mais aussi réformer la politique d'attribution des logements sociaux et favoriser dans tous les territoires l'accession sociale à la propriété pour qu'il y ait, à l'échelle des quartiers, à l'échelle des territoires, une véritable communauté nationale et une véritable volonté de faire en sorte que la République soit partout.
La laïcité, Sylvia Pinel, c'est un principe, un grand principe républicain. Je le disais, le PRG y est très très attaché. Cette laïcité, elle est de plus en plus souvent remise en cause, notamment par une certaine pratique de l'islam. C'est une question importante. Est-ce qu'il faut de nouvelles lois pour la protéger ?
C'est l'accusation, là.
D'abord, moi j'en ai un peu assez que lorsqu'on parle de laïcité, on l'associe tout de suite à la question de l'islam.
Est-ce qu'elle n'est pas remise en cause ?
Je regrette que
on parle laïcité,
beaucoup,
on parle d'abord de fraternité,
en tout cas,
on parle d'abord de respect,
se servent
on parle
de la laïcité.
Et on s'en sert pas pour accuser une religion, même minoritaire, et même qui connaît des problèmes. Parce que sinon, ça, ce n'est pas la laïcité.
Exemple, et de temps en temps
dans notre pays, on a 63% des gens qui sont athées.
La laïcité, c'est d'abord une
liberté. Ils respectent les autres et on doit respecter les athées. Tout le monde doit se respecter.
La loi de 1905, qui est chère aux radicaux,
c'est pas pour passer une minorité ou pour passer une religion au tribunal.
Elle a bien fait les choses. Et il n'est pas besoin de nouvelles lois, même si un certain nombre de prosélytismes conquérants, de certaines obligations faites aux femmes en particulier, sont pour moi inacceptables et choquantes. Quand les pères ou les grands frères imposent le voile aux femmes, c'est pour moi inacceptable. Mais c'est autant une question de droit des femmes, d'égalité de femmes-hommes, que de laïcité. Et là-dessus, effectivement, c'est par l'éducation, c'est par l'école, c'est par l'université, c'est par la formation et l'insertion dans la vie professionnelle aussi qu'on arrivera à lutter et à casser cette soumission de la femme.
Pas de loi.
La crise républicaine, vous l'évoquiez il y a un instant tous, c'est aussi la remise en cause de nos institutions, la façon dont fonctionne la démocratie, dont travaillent nos élus. Beaucoup de Français se sentent mal représentés. Il y a une cassure entre vous et eux.
Alors cette crise démocratique, elle s'est notamment cristallisée sur l'utilisation de l'article 49.3.
Donc c'est fini pour le voile, j'en reviens pas. Il y a un débat sur la présidentielle où on n'a même pas fait une minute entière. Sauf la question du voile.
Enfin, là, si on parle du 49.3, oui, c'est bien, on peut sauter ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut remettre en cause aussi l'élection du président au suffrage universel, le pouvoir personnel ? Est-ce qu'on peut permettre un régime parlementaire ?
Si on passe des heures et des heures de débat, pas ce soir, mais ces dernières semaines, sur le 49.3, alors qu'il y a un épuisement,
on a cassé le code du travail avec le
49.3. Que le scandale démocratique,
on a étouffé le Parlement avec le 49.3.
Il est dans une assemblée nationale.
On s'est opposé à 85% des syndicats avec le 49.3.
Dans laquelle les Français ne se
On s'est opposé à 70% de l'opinion des gens qui étaient contre la loi El Khomri. 78% des jeunes étaient contre la loi El Khomri. Le 49.3 a écrasé tout ça.
Ma proposition, et j'ai toujours
pour une loi qui n'était pas prévue dans le mandat, qui était demandée par personne sauf par le patronat.
C'est aussi le vote obligatoire.
Le 49.3 qui réveille Gérard Philon.
C'est surtout le mélange dans la dernière année. Je ne sais même pas comment la gauche a pu être possible d'engendrer cela. Je ne sais même pas.
Qui réveille Gérard Philon à 23h17 après plus de 2 heures de débat.
Et que les gens qui sont réveillés avec vous, viennent voter le 22 et le 29 contre le 49.3, qui viennent se venger du 49.3. On a fait 14 manifestations de rue, il y avait 3 500 000 manifestants, et qui viennent voter là le 22-29 et qui disent avale ce qui ravale son 49.3.
Si je vous souviens, vous êtes parfaitement d'accord avec Manuel Valls, qui en propose la suppression. J'ai bien suivi,
En plus, il avait avant d'être Premier ministre, il avait déjà dit qu'il était contre le 49.3. Bien sûr. Et pendant qu'il est Premier ministre, il le fait. Après, il dit qu'il ne l'est plus. En politique, c'est ce qu'on peut faire de pire.
Voilà ce qu'on peut faire de pire. Pour le vote obligatoire.
Une amende ou pas? Une amende si on ne va pas voter. Je veux juste savoir comment vous l'appliquez.
Comme toute loi, et moi je suis transparent. J'ai déposé une proposition de loi. Chacun pourra aller la consulter. Comme toute loi, quand on veut qu'elle soit appliquée, évidemment, il y a une sanction quand elle n'est pas appliquée. D'accord. Mais ce que je veux dire vraiment, c'est que la question démocratique, moi je suis pour la démocratie partout, tout le temps, parce qu'il n'y a pas qu'en politique. Il y a aussi des questions démocratiques dans les entreprises, dans les associations, dans certains syndicats, le paritarisme. Il faut réinjecter de la démocratie à tous les échelons de notre
Qu'est-ce
société.
Que c'est le paritarisme ?
Benoît Hamon, vous avez entendu Manuel Valls la semaine dernière. Il a expliqué que s'il avait utilisé à 6 reprises le 49-3, c'est parce qu'il y avait été contraint par les frondeurs.
Ah, ça c'était bon. Ça.
Vous êtes frondeur. C'est donc de votre faute, Benoît Hamon ?
Je ne vais pas revenir sur cette polémique. On a déjà eu largement l'occasion d'en parler publiquement. Il a son explication, j'ai la mienne. Et je pense que dans toute situation...
Dommage, moi je croyais bêtement que ça servait à ça, le fait qu'il soit l'un et l'autre sur le plateau. J'ai pas dû bien comprendre.
Élégante, mais ratée.
Je voudrais insister sur un point. La question qui nous est posée, c'est la démocratie française respire-t-elle assez ou pas?
Ah bah non, pouvoir personnel, c'est sûr que non.
Qu'on manque de démocratie au sens où il faut mieux associer les citoyens à l'élaboration, à la fabrique de la loi, mais aussi leur permettre.
Attendez, comment vous expliquez
cette démocratie finalement
un de ceux pour lesquels vous apprêtez
deux élections,
à voter, refuse
pour les citoyens
le débat
de se faire
avec
entendre.
Valls sur le 49-3, c'est
cette démocratie intermittente, il faut permettre aux citoyens de faire irruption dans les processus politiques, de
qui est très à l'aise.
Lui, Hamon, est très à l'aise, donc il pense que c'est réglé. Moi, je renfonce le
autre chose avait promis. C'est la raison pour laquelle je défendrai parmi les propositions que je fais dans le cadre de la 6e République deux réformes particulières. Sur le même principe que François de Rugy, la reconnaissance du vote blanc. Il m'est toujours apparu curieux que le geste civique qui consiste à aller devant les urnes, à voter, mais à ne voter pour personne, ne soit pas reconnu. Donc je proposerai que si ce vote arrive majoritaire, il annule et reprogramme un scrutin. Mais je proposerai aussi, sur le modèle italien, suisse ou californien, et il faudra qu'on envoie les modalités techniques, le principe d'un 49-3 citoyen, la possibilité pour les citoyens d'obtenir qu'un texte, sous condition d'un certain nombre d'inscrits sur les listes électorales, le veuille, que ce texte puisse être soumis à référendum quand il a été voté par l'Assemblée nationale. Mon objectif, c'est que cette démocratie respire. Et je n'aime pas l'idée qu'aujourd'hui on se
méfie du peuple. Vous connaissez la critique.
Je lui fais confiance pour mieux faire fonctionner nos institutions.
Vous connaissez la critique sur le 49-3 citoyen. Réunir 500 000 signatures sur une pétition.
Mais regardons.
C'est pas beaucoup, ça peut déstabiliser.
J'ai entendu les critiques. Regardons un pays comme l'Italie. Quand il y a eu l'union civile pour les homosexuels, il n'y a pas eu de référendum. Et la réalité, c'est que, par contre, il y en a eu pour remettre en cause la privatisation de l'eau. Donc, moi, je ne partage pas cette culture qui se méfie du peuple. Je considère aujourd'hui que dans notre démocratie, il faut lui donner davantage de place.
C'est pour ça que je suis pour des institutions avec des petites unités. Je n'étais pas pour grouper les régions. Je ne suis pas pour supprimer les départements. Je ne suis pas pour que les groupements de communes, il n'y ait pas d'élection. Je suis au contraire pour que les communes, le réseau d'élus, le maillage, l'ensemble du territoire soit avec justement des petites tailles, des petites dimensions.
J'ai fait inscrire la charte de la laïcité dans tous les établissements de France. J'ai remis l'instruction morale et civique. J'ai quand même un regret. Parce qu'il y a la parole et puis il y a les actes. On dit beaucoup aujourd'hui la laïcité, c'est aussi l'égalité homme-femme. Ah. Lorsque j'ai quitté le gouvernement, une des premières décisions qui a été prise, c'est d'arrêter ces ABC de l'égalité qui amenaient à lutter contre les discriminations entre les petits garçons et les petites filles. C'est dommage, sous la pression d'un certain nombre de communautaristes qui ne supportaient pas cela. Maintenant, sur la question que vous posez. La réalité de ce que nous vivons, y compris avec le renoncement de François Hollande, c'est une première sous la Ve République, n'est que l'exaspération d'une crise qui dure depuis 30 ans. Aucun président de la Ve République n'a pu être réélu, sauf à avoir été battu avant. On dit que la Ve République, il faut la garder parce qu'elle est forte, elle est efficace, elle permet de bien gouverner. C'est l'inverse. Et on voit même, elle ne permet même pas de se représenter. Et on est obligé d'utiliser le 49-3. Donc je propose une réforme institutionnelle totale. 50% de nos concitoyens ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et nous avons une culture du coup de force, du 49-3, du passage en force. Je veux, comme dans beaucoup d'autres grandes démocraties, comme en Europe, une proportionnelle intégrale pour l'élection des députés dans les grandes régions.
C'est bien.
Ça nous obligera à nous respecter. Tous les Français seront représentés et nous devons construire des contrats
absolument
de gouvernement.
Totalement l'idée de la
Je veux aussi une justice indépendante, l'indépendance du parquet. Je veux le mandat.
Vous allez voir Payon.
Je veux qu'il ne puisse pas y avoir
demain mandat ou après-demain.
Je pense que Montebourg et Hamon sont aussi pour la proportionnelle. Ils n'ont pas dit, mais je crois qu'ils sont.
Il faudra
présenter un nouveau Premier ministre et je veux que les citoyens soient associés aux deux grands problèmes qui sont les leurs aujourd'hui. Non pas la fabrication de la loi, ça n'est pas leur rôle, ça c'est la souveraineté législative, mais l'application de la loi. Et je donnerai tous les moyens aux citoyens associés aux parlementaires pour aller vérifier que les lois soient bien réalisées. Et deuxièmement, je demanderai au Conseil économique, social et environnemental de faire des conférences
citoyennes.
Comment
citoyennes les citoyens associés aux parlementaires 5 ans, vont vérifier que les lois sont bien appliquées.
Ouais.
Quelles
sont les difficultés.
Une belle proposition.
Plus d'inflation législative.
Qu'il faudrait développer.
Je vois bien comment on peut développer le contrôle des usagers. Comment on peut développer le contrôle des salariés. Et comment on peut développer le contrôle de la puissance publique sur les entreprises. Je viens d'apprendre aujourd'hui c'est quoi l'entreprise américaine qui a fait pire que Volkswagen. 104 millions de véhicules truqués. Comment des entreprises de cette taille-là échappent-elles au contrôle public?
D'abord, je me réjouis de voir que
leurs usagers
qui ont été proposés il y a 15 ans se répandent et de les retrouver chez nos amis, mes amis, Vincent, Benoît, d'autres. Et la proposition pour finalement rassurer les Français, car on ne pourra pas réformer profondément le pays, le transformer, s'attaquer aux problèmes économiques et sociaux, à l'Europe, la nouvelle politique étrangère, si on n'a pas reconstitué les voies et les moyens de la confiance avec les Français, qui se plaignent d'une seule chose. On vous dit des choses dans les campagnes électorales, on fait le contraire après.
Ça, c'est clair.
Et donc, c'est ça le problème. Quels sont les moyens? Comme disait Pierre Mendès France, la démocratie, ça ne consiste pas à mettre un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans. Ça consiste, dans l'entretemps, de venir intervenir, poser des questions, être acteur. Eh bien, c'est ce que je veux créer en réformant profondément et en instaurant par référendum, dès l'automne 2017, la 6e République. Par exemple, mesure, vous me le demandiez, le tirage au sort des citoyens, un par département, sur les listes électorales qui entreront au Sénat, seront sénateurs pendant 6 ans. Et ils auront des pouvoirs de contrôler le gouvernement.
Donc il a changé la constitution pendant l'été.
En juillet, je serais plus favorable à une assemblée constituante. Je ne suis pas très favorable au tirage au sort. Je ne suis pas favorable à un septennat. Vous voyez qu'il y a des matières à débattre.
Qui mêleront leur intelligence, leur connaissance, leur expérience à l'expertise que chaque citoyen peut apporter à partir de sa vie et pour le profit du bien commun. Ça existe dans les jurys d'assises et ça existe aussi dans de nombreux pays européens.
Merci beaucoup Arnaud Montebourg.
En début de cette soirée, vous avez chacun à votre tour expliqué les raisons de votre candidature. Je vais vous demander à présent de conclure ce débat. Vous avez 1 minute 20 chacun.
Je veux défendre les petits salaires et les petites retraites. Je veux que le partage des richesses soit le début du changement. Je veux que l'augmentation des salaires soit l'instrument de la relance. Je veux qu'on prenne sur les dividendes. Je veux qu'on prenne sur les 1% les plus riches. Et je veux qu'on fasse payer les impôts multinationales pour que notre République puisse enfin avoir de l'argent pour les hôpitaux et pour les écoles. Je veux cette redistribution des richesses et une politique de gauche qui n'a pas été faite pendant 5 ans. Et je veux que le bilan triste que nous avons vécu devienne un bilan joyeux pour une gauche unis, qui gagne la présidentielle.
Vous auriez dû regarder François Fillon, ça aurait été plus efficace.
Et l'extrême droite dangereuse de Marine Le Pen. Je vous dis ma conviction, je considère que face à cette droite totale et cette extrême droite dangereuse, il faut une gauche qui s'assume, une gauche compacte, une gauche qui propulse un imaginaire puissant face à une droite et une extrême droite qui veulent déconstruire la République. Je pense donc qu'il faudra être demain fidèle à nos valeurs, mais moderne dans nos solutions. Tourner le dos à la vieille politique, tourner le dos à ces solutions qui ne marchent plus et se tourner véritablement vers le futur. L'engagement que je prends, c'est demain de tout mettre en œuvre pour rassembler la gauche. Mais pour cela, il faut que vous me donniez votre force. Votre force, ce sera celle de votre participation, la plus nombreuse possible à cette élection des 22 et 29 janvier. Avec cette force, cette énergie, je serai en capacité de rassembler la gauche, je serai en capacité de pouvoir battre François Fillon et Marine Le Pen. Voilà pourquoi je vous demande de vous prononcer en faveur de ma candidature les 22 et 29 janvier.
Jean-Luc Benhamias.
Ce redoutable exercice de la conclusion monologuée face caméra.
Nous devons faire
en même temps, il concentre bien.
Exercice qui télévisuellement ne correspond strictement à rien, si vous voulez. Là, on est vraiment dans la télévision roumaine ou bulgare des années 70.
Comme cela existe notamment en Allemagne.
En même temps, je ne sais pas très bien comment on pourrait conclure autrement une émission comme celle-là.
Il faut bien que les gens disent à la fin ce qu'ils pensent le plus important eux-mêmes.
Maintenant la conclusion.
Oui.
Choisissent leur façon de le dire, mais...
Non, c'est très bien ce que retiennent les téléspectateurs d'un débat comme celui-là, c'est absolument pas les monologues. Ce que retient le téléspectateur d'un débat comme celui-là, c'est les incidents et c'est les moments de rencontre.
Nous sommes les moments de rencontre
autour c'est le degré de conviction qu'ont les gens.
Aucun d'entre nous,
oui,
parce que
ça, mais qui s'exprime notamment au cours des incidents, au cours de l'imprévu. Ce qu'on retient dans une émission de télévision comme celle-là, c'est l'imprévu. C'est-à-dire, c'est le moment où, effectivement, va éclater une petite.
Là, son degré de conviction, on sent bien qu'il n'est pas très puissant.
On le sent.
Si on ne peut pas gagner eux non plus, ils peuvent nous faire perdre. Nous ne serons pas trop de 7. Pour débattre, réfléchir et parvenir à résoudre ce problème pour ne pas laisser la France entre les mains d'une droite ultra-réactionnaire et pire encore, entre les mains
de l'extrême-droite. Toujours délicat de tirer des conclusions à chaud d'un débat.
Ah ben, puis nous, le faire de façon vivante en permanence.
Et le faire de façon vivante, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, je n'ai pas eu d'énormes surprises.
Et un problème.
Aucune personnalité ne s'est révélée très différente de l'image que j'en avais. J'ai le sentiment que chacun a fait son petit numéro dans les rails bien tracés.
Moi, je vois bien Valls toujours coincé et pincé quand même. Oui, là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de politique derrière, il n'y a pas d'espace.
Je veux dire aux Français qui nous écoutent, qui nous regardent, que nous pouvons l'emporter dans 4 mois. Il faut que la gauche se retrouve et qu'elle soit capable de s'unir. Notre ennemi, c'est le défaitisme. Aucun récit n'est écrit d'avance. Il ne dépend que de nous de le réaliser autrement. Qui s'opposera, sinon la gauche, à la chasse indécente aux fonctionnaires qui a été lancée à droite? Qui s'opposera à l'amplification de l'austérité? Qui s'opposera à la façon dont on est en train aujourd'hui de construire une société de suspicion? C'est notre responsabilité et je crois que tous les Français qui ont été déçus par ce quinquennat peuvent aujourd'hui faire de leur déception, peut-être de leur colère, pourquoi pas de leur révolte. Ils peuvent en faire des projets et des perspectives. C'est ce que je vous propose de faire. Nous l'emporterons ainsi dans 4 mois.
Manuel Valls.
J'aurais aimé vous parler de laïcité, que je chéris, de l'égalité pour les femmes, de la culture qui irrigue notre société, de ces enseignants qui font le plus beau métier du monde parce qu'ils transmettent des savoirs et des connaissances, de la place des anciens dans notre société. Je n'ai pas le temps, nous ferons à l'occasion d'autres débats. Mais il s'agit d'élire le président de la République de la 5e puissance mondiale. Il s'agit d'élire le président de la République de la 2e puissance économique de l'Union européenne, dans un monde instable et dans une Europe en crise.
C'est le jeu de la puissance, de l'autorité et de la peur.
De Poutine.
Il ne sait pas avoir un langage social, cet homme.
Il ne s'agit pas d'affaiblir ce président.
Il n'a pas de l'empathie pour les humains.
Des révisions constitutionnelles.
Il n'a que de l'affirmation de l'autorité.
C'est le peuple de France, c'est à vous, citoyens, bien sûr.
Il commence sur l'autorité, il parle de l'autorité, il conclut sur l'autorité.
Mais tous ceux aussi qui ne veulent.
Est-ce que vous pensez que ça peut être électoralement payant?
Non.
Ni
de.
Non.
Non. Les gens
de
l'extrême droite.
Les gens,
c'est pas
les gens.
Mais les gens, ils ont quelque chose dans leur assiette. Qu'est-ce que j'ai, comment je finis ma fin de mois? Est-ce que j'ai des vacances pour mes gamins?
Je veux gagner.
Il y a aussi une partie de l'électorat qui se fait du président de la République.
Oui, mais c'est une petite partie.
Vous pensez
forte et une France juste.
Vincent Payon.
Je répète toujours ma formule. Pour gagner l'attention des gens, il faut vouloir du bien.
Lasse.
Faire du bien aux gens.
Notre pays se cherche. Il a besoin d'espérance. Il sait très bien.
Je pense que Manuel Valls ne veut pas du bien aux Français. Il veut du bien à ceux de là-haut. Il est là pour l'oligarchie, pour les 1%. Ça sent trop. Et les autres, ils devraient baigner plus, à mon avis, dans ce qu'est les classes populaires, les employés, les ouvriers. Il faut qu'ils aillent faire des stages en entreprise. Et après, ils reviendront meilleurs.
Les postures et parfois même les réformes de la droite. Elle se souvient qu'il y a eu une gauche dans ce pays, celle de Léon Blum, celle de Daniel Meyer, celle de Pierre Mendès France, celle de Lionel Jospin, celle de François Mitterrand, qui a pu gouverner à gauche et finalement accroître le patrimoine démocratique
dans le gouvernement de François Hollande
qui appartient aujourd'hui à tous les Français. C'est ma tradition, c'est ma volonté. Ma candidature, je n'ai ôté aucun des combats des diviseurs. Je n'ai outré aucune position. Je n'ai défié personne. J'ai attendu ce moment
les
de rendez-vous avec
c'est
la démocratie.
Amont,
je veux être
Montbourg,
le président de la République,
tous ceux qui sont
socialiste,
tous ceux qui sont
mais qui
partis
gouvernera
en
pour
la porte,
tous les Français, dans un moment difficile,
où qu'on a fait
un contexte international troublé, une Europe dont on n'a pas parlé, quelle honte, elle est la seule voie de l'avenir, et une France qui, je le crois,
parce qu'elle est constituée de républicains, d'hommes et de femmes, qui n'en peuvent plus qu'on leur impose des débats identitaires et marginaux par rapport à ce qu'ils souhaitent, se lèveront pour accompagner ce redressement républicain que je propose.
Sylvia Pinel.
Ce premier débat a montré que nous sommes tous ici en accord sur de nombreux points. C'est heureux. Ces valeurs communes permettront à la gauche de se retrouver, de se rassembler le moment venu. Mais le premier tour de cette élection est surtout le moment qui me permet de proposer aux Français un nouveau chemin, celui d'une gauche qui croit à un avenir plus juste, qui veut incarner l'espoir, qui croit au talent des Français face à une droite enfermée dans le passé, la régression, et face à une extrême droite qui nous conduira immanquablement à la division. Alors si, comme moi, vous croyez dans une gauche audacieuse, réaliste, moderne et responsable, si vous pensez qu'il faut enfin regarder l'entreprise non pas comme l'ennemi, mais comme le moyen de partager la richesse de notre économie, si vous pensez que le salarié n'est pas une marchandise mais qu'il a le droit à une vie professionnelle à l'abri de la précarité, si vous croyez à une écologie de progrès et non de blocage, si vous pensez que l'Europe doit être plus forte et plus solidaire, si, comme moi, vous savez que la laïcité est une liberté et la garantie de l'unité nationale, alors n'hésitez pas, pour cette élection, à soutenir une femme de gauche qui veut redonner confiance à la France.
François Drugy. L'avantage, c'est qu'une femme.
Merci à vous d'abord d'avoir animé ce débat. Et merci surtout à vous qui avez suivi ce débat à la télévision ce soir.
Merci François. Ça nous
en suivant ce débat, vous avez, et en votant à la primaire le 22 janvier, vous accomplissez un acte citoyen. Et la République a besoin de citoyens engagés, de citoyens libres.
Oui.
Vous avez pu le voir.
Bon, alors,
ce soir,
c'est fini maintenant. Il est temps de se dire les choses franchement. Entre Hamon et Montebourg, vous allez choisir. Vous allez choisir comment, Gérard ?
C'est pas ce soir. J'ai été départagé.
Le conformisme des partis ou le conformisme aussi de certains médias.
Arnaud a eu des bons tons. Voilà. Non, ils ont du talent tous les deux. J'hésite pas. En tout cas, j'hésite pas entre eux et Valls.
Ça, on l'avait déjà compris.
Non, mais il y a même pas. Oui, c'est pas ça.
Mais
ça confirme, c'est-à-dire sur le fond des idées. Voilà. Bon, après, sur les deux, au début, je reste gêné qu'on soit parti sur cette histoire de revenu universel qui me semble une diversion. Et regardez pourquoi on ne parle pas des choses concrètes. C'est-à-dire, on a trop peu parlé du SMIC, trop peu parlé des salaires, trop peu parlé du droit du travail. On n'est pas assez rentré dedans. Le droit du licenciement et la façon de le faire. Donc, tout ça parce qu'on diverge, on diverse sur le
droit. Alors, vous faites quoi ? Vous attendez le deuxième débat pour vous prononcer ? Vous faites quoi ?
Non, je vais rediscuter avec l'un et l'autre. J'ai fait une lettre que tout le monde peut trouver sur mon blog. C'est pas pour. Franchement, c'est pas pour un jeu. Moi, je vais aux questions de fond et je voudrais les réponses sur les questions de fond. Je suis aussi un petit peu gêné quand on me dit qu'on pourrait discuter avec Macron. Et je sais que c'est le cas de Benoît. C'est pas la même chose. La gauche, c'est la gauche. Et si on discute avec Macron en même temps qu'on veut discuter avec Mélenchon, on fera rien des deux. Rien des deux. Donc, faut choisir son camp, la gauche, et la discussion d'un programme de gouvernement. Je suis candidat pour participer à cette discussion du programme de gouvernement le lundi 30 janvier, quel que soit celui des deux qui l'emporte.
Ok, très bien, c'est clair. Et on suivra la suite de votre parcours dans les prochains jours. En tout cas, merci beaucoup. Alors,
j'espère surtout que pour nous,
j'espère aussi.
C'était un exercice aussi difficile. Hein. Moi, j'ai calmé des impatiences à des moments donnés. Et puis, on n'est pas dans une situation où on peut développer tous nos arguments, ce qui fait qu'on a l'air un peu extérieur tout en participant avec nos tripes à l'affaire.
Vous en avez développé pas mal. Et en tout cas, cette émission n'a fait que conforter mon sentiment que le débat aurait été beaucoup plus intéressant et plus riche si vous y aviez participé, mais on a essayé de l'enrichir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à cette heure avancée. Cette émission, vous pourrez la retrouver évidemment sur le site d'Arrêt sur Image à partir de demain vendredi. Ce sera notre émission de la semaine. Et donc, comme à la fin de chaque émission de la semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.